Moi, je t'appelle le Mike Horn du Bitcoin. Alors, Indiana Jones, pour ceux qui ne connaissent pas Mike Horn. C'est-à-dire que tu vas dans les pays où l'électricité est la plus accessible, au tarif le plus bas. Donc, c'est-à-dire dans les pays où il y a le moins d'infrastructures et il y a le moins de facilité pour arriver justement à miner du Bitcoin.
Le projet de la Chine, il est très simple, hein, c'est d'envahir le monde avec sa monnaie, d'en faire une monnaie mondiale qui va prendre le pas sur le dollar. Ils sont en train d'y arriver parce qu'ils vont être prêts avant les Américains et avant les Européens.
Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleecho.com/podcast. Allez, c'est parti. Sébastien Gouspillou, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de te recevoir parce que j'ai enfin commencé à trouver les vrais experts du Bitcoin. C'est-à-dire, on est loin de toutes les bases marketing et vendeurs en tout genre. Voilà, plus ou moins compétent et surtout moins. Et je voulais te faire venir parce que tu vas nous expliquer ton métier aujourd'hui, c'est de miner. Moi, je t'appelle le Mike Horn du Bitcoin. Alors, Indiana Jones, pour ceux qui connaissent pas Mike Horn. C'est-à-dire que tu vas dans les pays où l'électricité est la plus accessible, au tarif le plus bas. Donc, c'est-à-dire dans les pays où il y a le moins d'infrastructures et il y a le moins de facilité pour arriver justement à miner du Bitcoin. Donc, je voulais voir avec toi justement ce que c'est que ce métier. Puis après, on reviendra sur comment t'en es arrivé là.
Bonjour et merci de me recevoir. Donc oui, effectivement, le job consiste, l'essentiel de mon job, moi, dans l'entreprise, c'est d'aller démarcher des compagnies d'électricité partout dans le monde en leur demandant s'ils ont des surplus. C'est comme ça qu'on travaille. Donc une fois qu'on a identifié la quantité de surplus qu'ils ont, on leur fait une proposition, on va vous racheter X surplus, genre 10 mégawatts tous les mois, 10 mégawattheures, et voilà ce qu'on peut proposer pour cette électricité dont vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui.
Donc, alors, juste un mot, le minage. Dis, oui. Explique ce que c'est que le minage, parce que je suis en train de me dire que c'est peut-être pas clair pour tout le monde.
Alors, le mining, c'est ce qui sécurise la blockchain Bitcoin. Donc, ça a plusieurs effets. Les mineurs valident les transactions. De façon à ce que les nodes puissent les inscrire après coup dans la blockchain. Donc c'est le réseau qui sécurise la blockchain Bitcoin. C'est ce qui fait que c'est réputé inviolable et que les données qui sont dans la blockchain Bitcoin sont réputées impossibles à corrompre.
Donc quand je paye mon café en Bitcoin, c'est toi qui sécurise la transaction.
Exact. Enfin, c'est moi. J'ai une chance sur quelques millions que ce soit une de mes machines qui sécurise cette transaction.
Et tes congénères.
Exactement. C'est une loterie, en fait. Ce sera toujours un appareil, un mineur qui va authentifier cette transaction que tu vas faire.
Voilà. Alors, comment ça marche un peu pour qu'on comprenne
Je crois que c'est très difficile à comprendre comme ça, vulgariser le concept, c'est compliqué. Mais en gros, quand tu lances une transaction, t'es pas le seul à en lancer une. Donc, chacune de ces transactions va être mise sur le marché. Et donc, les mineurs vont se mettre en action pour essayer de valider cette transaction avant le mineur concurrent. Donc, c'est une compétition en permanence. Et donc, c'est un calcul très simple. Contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est des calculs très compliqués. Non, c'est un calcul très simple. Mais c'est un calcul qui peut pas donner de résultat. On s'approche d'un résultat. Et c'est celui qui va s'approcher le plus du résultat qui va avoir gagné cette compétition. Et donc, c'est celui qui sera récompensé des frais de transaction et également de la création monétaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore une création monétaire Bitcoin et on n'a pas encore atteint les 21 millions.
C'est un peu comme calculer pi, en gros, tu finis avec des chaînes et puis tu calcules plus de nombres après la virgule qu'a gagné, quoi. C'est un peu
pour schématiser, ouais.
Voilà.
Pour schématiser, parce que techniquement, c'est très compliqué à vulgariser et même moi, j'ai besoin d'un manuel parce que je suis pas informaticien. Moi, je suis, c'est pour ça que j'ai pas trop de mal à vulgariser le système parce que je pense que je le rends accessible à des gens comme moi qui n'ont pas une énorme compétence informatique. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, mais mes collègues sont ingénieurs et eux, c'est leur job, ils savent.
Et la matière première du minage, c'est l'électricité. Ton outil de travail, enfin la première chose dont tu as besoin, c'est de l'électricité. Parce qu'on dit Bitcoin, ça consomme énormément d'électricité.
Oui, ça consomme énormément d'électricité. Tout dépend de ce qu'on appelle énormément. On a un référent. Ce qui est très bizarre avec le Bitcoin, c'est que ça déclenche une ire des écologistes qui est vraiment spécifique, axée sur le Bitcoin. Et c'est assez ridicule parce que finalement, en valeur absolue, la consommation de Bitcoin, c'est une consommation qui est raisonnable par rapport à plein d'autres domaines industriels dont on connaît pas du tout la consommation électrique. Comparé à un pays, ça c'est très nouveau. C'est pour le Bitcoin qu'on a inventé ça. On invente que le Bitcoin consomme autant que que l'Irlande. Moi, quand j'ai commencé à miner en France, c'était l'Irlande, puis après c'était le Qatar, puis après on a dit ça consomme autant que la Roumanie, puis après autant que la Hollande, ou avant la Belgique et la Finlande, puis après la Hollande, maintenant c'est la Suède. Voilà. Mais pourquoi le Bitcoin, on sait que ça consomme autant qu'un pays, quoi. La fabrication des pulls, par exemple, personne ne sait combien ça consomme d'électricité. Je te parlais hier de l'aluminium, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on arrive à faire un argument écologique en disant « utilisez de l'aluminium, parce que comme ça, il n'y a pas de plastique ». Il y a des bouteilles d'eau maintenant où c'est écrit « no plastic water ». Donc c'est un pis-aller, on dit l'aluminium, ok, on sait que ça pollue, la bauxite, l'extraction de la bauxite, c'est des centaines de millions de tonnes de boue, mais c'est quand même mieux que d'avoir du plastique plein les océans. Mais en revanche, la consommation électrique de l'aluminium, ça, personne n'en parle. Et donc tous les pays que je t'ai cités là, ces huit pays-là, ça représente même pas le total de la consommation de l'aluminium. Pour avoir la consommation de l'aluminium, il faudrait rajouter le Kazakhstan, le Tadjikistan et l'intégralité du continent australien. Et là, tu aurais la consommation de l'aluminium. Et on n'entend jamais ça. On n'entend jamais l'aluminium consomme autant que 10 gros pays. Parce qu'on s'en fout, c'est pas le sujet. L'aluminium se nourrit d'électricité qui souvent a été construite. Là, le pôle électrique pour fabriquer l'aluminium a été construit pour l'aluminium. Donc ça fait pas défaut aux populations. Souvent c'est des centrales hydroélectriques. Donc l'impact d'une industrie se mesure pas par rapport à la consommation d'un pays. Ça n'a rien à voir. Surtout dans le cas du Bitcoin où on consomme toute la journée 24/24, alors qu'un pays va avoir une consommation beaucoup plus forte en journée pendant l'hiver que l'été, la nuit.
Parce qu'en fait, ce que tu m'expliquais, c'est que pour miner du Bitcoin, ça consiste à faire tourner des ordinateurs. Mmh. Et tourner ces ordinateurs, tu vas gagner des Bitcoins en les faisant tourner, ou tu vas être rémunéré pour les faire tourner. Donc, si t'es moins rémunéré que ce que tu dépenses en électricité, plus le coût des machines, ça marche pas.
Exactement.
Donc, il faut que t'aies une électricité très peu chère. Et où est-ce qu'on la trouve? Raconte-nous, du coup, comment tu la trouves, cette électricité, à 1, 2 centimes, tu me disais? Enfin, des prix, ouais. Nous, on est à 15 en France pour donner un référentiel, on est à peu près à 14, 15 centimes.
Pour l'instant, sur l'extraction sur le mining, effectivement, les mineurs, une fois qu'ils sont, si le cours baisse beaucoup, ils deviennent plus rentables, ils coupent. Ça, c'est spécifique au mining de Bitcoin. Dans d'autres types d'activités minières, comme l'extraction de l'or, par exemple, les mineurs travaillent à perte pendant des années. Ils sont couverts par des assurances financières. Nous, on n'a pas encore ça dans le mining, mais c'est en train d'arriver. Donc maintenant, les mineurs vont miner tout le temps, même quand ils vont payer plus cher d'électricité que ce qu'ils extraient. Exactement comme font les mineurs. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. Je suis pas sûr que ce soit très sain. Moi, j'aimais bien l'idée que quand c'est rentable, on mine. Quand c'est pas rentable, on mine plus. Ça faisait un équilibre planétaire. Donc, où on trouve cette énergie pas chère? Ben, là où il y a des surplus, toujours. Donc, vraiment, nous, notre question, c'est toujours, est-ce que vous avez des surplus? Parce que si il y a des surplus, on peut obtenir un prix pas cher. S'il y a une clientèle pour les mégawatts produits par la compagnie d'électricité, on pourra jamais obtenir de bons prix.
Alors, qu'est-ce que tu appelles un surplus? Explique concrètement, par exemple, en Afrique, avec ton barrage.
Ben, en Afrique, on travaille pas sur des barrages, on travaille sur des petites centrales au fil de l'eau. C'est pas la même chose, parce que souvent, les gens pensent que l'hydroélectricité, c'est un barrage. Et dans l'idée des gens, un barrage, c'est inondation d'une zone, déplacement des populations, donc catastrophe écologique. Hein. Très souvent, la création d'un grand barrage entraîne une modification du lieu, de l'écosystème de la région. Les centrales au fil de l'eau, c'est beaucoup beaucoup plus clean. Hein. Maintenant, on fait des petites centrales au fil de l'eau qui ont très peu d'impact, mais vraiment très peu d'impact sur la faune et la flore. On fait des bâtiments qui sont assez beaux, c'est très peu bruyant. Et surtout quand on prend comme ça au fil de l'eau, on n'a aucun impact sur l'eau de la rivière.
Mais en plus, vous faites un bras.
Oui, c'est ça. En général, on a plusieurs manières de travailler sur les centrales au fil de l'eau, mais là, moi, celle que je connais le mieux, c'est que tu dévies en fait une partie de la rivière, tu fais descendre et de façon à ce que la chute prenne de la puissance et arriver en bas, t'as de l'eau qui arrive vide et qui fait tourner les turbines.
Donc les petits poissons, ils passent tout droit dans la rivière, ils s'aperçoivent même pas qu'il y a une branche pour...
Exactement, t'as ou des échelles de poissons quand c'est des centrales au fil de l'eau qui sont directement sur la rivière. Quand c'est comme ça une prise d'eau, t'as juste un grillage qui empêche les poissons de passer. Ouais, et donc ça n'a pas d'impact sur la faune, sur les poissons en tout cas, c'est certain.
Alors toi, qu'est-ce que tu fais?
Et ben donc moi je leur propose, quand cette centrale-là est mise en service, je leur demande s'il y a des surplus. Et là en l'occurrence c'était le cas, parce qu'on est en Afrique dans une région où il y a très peu d'équipements électriques. Il y a 8% de la population au Congo en RDC qui a l'électricité, essentiellement dans les villes. Donc il y a tout le travail d'électrification des campagnes à faire. Donc quand tu crées comme ça une offre électrique, t'as pas la demande en face, avec une population qui est pas habituée à l'électricité. Et donc là, dans la région où on est, au Nord Kivu, T'as le gros business, c'est le charbon de bois. Donc toute la cuisine est faite au charbon de bois. Le peu que les gens se chauffent, c'est au charbon de bois. Donc il y a un énorme marché du charbon de bois à Goma. C'est vraiment le business. Et ce charbon de bois, comment il est fabriqué? Ben, ils vont dans la forêt, souvent la forêt primaire. Dans cette région-là, on a un des derniers poumons de la planète, et c'est en train de disparaître parce que les gens coupent le bois pour ce business-là, pour se chauffer. C'est l'énergie de la région. Et donc, en amenant l'électricité, ben, le besoin en charbon de bois va diminuer, et donc on va éviter la déforestation. C'est aussi simple que ça. Mais c'est long. Il faut créer la centrale. Une fois que la centrale est créée, il faut créer tout le réseau de distribution, et puis il faut créer l'habitude. Donc, il faut réussir à amener les populations à l'électricité. C'est pas toujours simple. Là, ce producteur d'électricité-là, l'année dernière, il était encore à donner des plaques électriques aux nouveaux abonnés, de façon à leur montrer qu'on pouvait faire la cuisine autrement qu'avec un barbecue au charbon. Donc, ils offraient la plaque électrique.
On vous offre la plancha et vous passez à l'électrique.
Exactement, exactement.
Et donc tu me dis que ce barrage est dans une réserve.
Alors c'est à côté du parc des Virunga, c'est à la frontière, donc dans la partie congolaise. Et voilà, donc c'est une petite centrale hydroélectrique qui fait celle-ci là dont je parle, elle fait 15 mégawatts. Cette compagnie d'électricité en exploite 3 des centrales, ils sont en train d'en fabriquer une quatrième. Et donc le projet global, c'est 120 mégawatts d'électricité qui vont être distribués aux populations. Et c'est juste énorme pour ce pays-là. C'est un très très gros projet. Et ce projet-là, on est une petite béquille pour lui. Attention, hein, on n'est pas ni Indiana Jones ni rien. C'est eux, les aventuriers, les gars qui arrivent à construire ça en pleine jungle. Ben nous, on accompagne ça, on leur achète pour l'instant des mégawatts, et financièrement pour eux c'est hyper intéressant. Ça va leur permettre d'aller plus vite dans la réalisation du réseau haute tension, donc ça a tous les avantages.
Parce qu'ils construisent d'abord le barrage et ensuite ils électrifient, parce qu'on se dit bah pourquoi ils électrifient pas en même temps que le barrage?
Parce que c'est pas forcément sur les mêmes lignes budgétaires, et puis que tu dois faire toute ta recherche de clientèle avant de déterminer où est-ce que tu vas envoyer ton réseau haute tension aussi quand même. Et puis une centrale hydroélectrique, c'est jamais certain, tu l'as construit en espérant que ça va fonctionner arrivé en bas. Donc déjà, tu commences par construire ta centrale, et puis quand tu constates qu'elle fonctionne, tu crées ton réseau de distribution.
Ah bon?
Bah oui.
C'est pas sûr que ça marche?
Bah c'est pas sûr que ça marche. C'est pas sûr que ça marche exactement comme on l'a envisagé. C'est à chaque fois, c'est un cas d'école. Hein. Tu fais ça en pleine nature. J'imagine, c'est pas moi qui les fabrique, mais j'imagine que tu pars d'hypothèses, et il faut vérifier les hypothèses. Tu peux les vérifier que par l'expérience. Donc une fois que tu as mis ta centrale en route.
Et toi, alors, t'arrives et l'électricité est produite, mais on ne sait pas quoi en faire.
Exactement. Pendant une période donnée, l'offre est très supérieure à la demande. Et ça, c'est systématique. Dans chaque opération de création de nouvelle énergie renouvelable, tu as toujours un décalage entre l'offre et la demande à un moment T. Ou alors, c'est qu'on a fabriqué beaucoup trop petit. Mais l'offre doit être conçue pour l'avenir, elle ne doit pas être conçue pour une demande à un moment T.
Oui, c'est ça qui fait qu'il y a des gros surplus, c'est parce que le barrage, on le fait pour un siècle, en gros, parce que c'est un barrage.
Oui, la centrale, on l'a fait pour plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Hein. Donc, effectivement, il faut envisager, si tu as une force motrice qui te permet de générer 15 mégawatts, tu vas pas faire 5 mégawatts, parce que le coût de construction est presque le même. Ouais. Donc, après, si ta demande augmente, il faut recommencer les travaux, donc avoir de nouveau un impact, une empreinte CO2 sur l'environnement, parce qu'au moment de la fabrication, tu as un impact. En revanche, au moment de l'exploitation, t'as plus d'impact. Donc que la centrale produise 100% de sa capacité ou qu'elle produise 20%, l'impact est exactement le même. Donc, on est totalement neutre quand on vient comme ça travailler sur des surplus. Et contrairement à ce qui se raconte, enfin moi, tous les mineurs que je connais font ça. Voilà, il y a quelques.
Oui, c'est ça la question. Est-ce que c'est une anecdote ça?
Ah non, c'est pas du tout une anecdote. C'est pas du tout une anecdote. On est en concurrence féroce sur les surplus qui viennent de l'hydroélectricité. On l'est pas du tout sur le charbon. Moi, aujourd'hui, je suis capable d'installer 200 mégawatts au Kazakhstan sur du charbon. Je le fais pas parce que c'est pas mon job, et j'ai la plupart de mes collègues qui veulent pas y aller. Pour différentes raisons. D'abord, par des convictions écologiques, et puis aussi pour une question de business, parce qu'on a tous dans l'idée que les hydrocarbures vont augmenter. Tu regardes le cours du pétrole, ça augmente fort depuis plusieurs mois. Tous les hydrocarbures sont liés, hein. Quand le pétrole augmente, le charbon augmente. Donc on pense que le kilowatt carboné va beaucoup augmenter et qu'il n'y aura plus de place pour du mining sur cette énergie qui devient rare. Pour moi, c'est une évidence. Ça ne veut pas dire que ça sera l'année prochaine. Mais pour moi, à un horizon de 5 ans, le mining sur le charbon est condamné. Hein.
Et alors, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que pour moi, le mining, je vois les pubs un peu sur Internet, acheter un ordinateur à 2000 balles ou 1000 balles ou j'en sais rien, enfin voilà. Et puis on offre ça aux petits neveux ou je sais pas quoi. Et en fait, on mine chez soi et on se dit, voilà, c'est les parents qui râlent parce qu'ils ont la facture d'électricité qui explose parce que le gamin il fait du Bitcoin. C'est cliché et c'est complètement.
Ça n'existe pas pour le Bitcoin. Si tu achètes une machine de mining pour miner chez toi, c'est que tu mines autre chose que du Bitcoin, parce que t'as quand même un paquet de jetons qui sont sur le même concept, le même protocole de validation, donc t'as proof of work. L'Ethereum, par exemple, aujourd'hui, tu peux miner de l'Ethereum chez toi avec une carte graphique.
Mais c'est pas rentable.
Si, en ce moment, c'est rentable.
Oui.
En ce moment, c'est rentable. Les cours ont tellement monté que même avec une électricité à 15 centimes à domicile, aujourd'hui, tu peux miner de l'Ether chez toi, c'est rentable. En revanche, faut rentabiliser l'achat de la carte graphique et aujourd'hui, c'est hyper cher.
Oui, parce que j'imagine que les prix des cartes graphiques augmentent en fonction du cours de l'Ethereum et du Bitcoin. Quoi. C'est-à-dire que les gars qui vendent les cartes, ils sont pas idiots.
Bien sûr, et puis oui. Alors moi, je m'y connais moins bien sur les cartes graphiques parce que j'ai arrêté de miner les altes depuis longtemps. On s'est vraiment spécialisé sur le Bitcoin, mais c'est à peu près le même principe. Quand les cours augmentent, évidemment, le prix des machines augmente parce qu'ils font leur prix en fonction du rendement attendu. Donc tu pouvais voir un S19, donc c'est le haut de gamme des machines de mining Bitcoin. Il y a 6 mois, ça valait 1 500 €. Aujourd'hui, ça vaut 12 000 euros. Et le coût de fabrication reste le même. Donc, tu as deux phénomènes. Tu as l'augmentation du prix qui fait que l'ASIC augmente. Et puis, il y a aussi la rareté. Et actuellement, il n'y a plus de puces électroniques pour tous les domaines. Hein. J'ai lu il n'y a pas longtemps que Renault allait être bloqué dans sa production parce qu'il n'y a plus de puces. On a la même problématique dans tous les systèmes électroniques. Donc là, il y a une vraie rareté des machines aujourd'hui. Et les prix s'envolent, non seulement à cause de l'augmentation des cours, mais à cause de cette rareté. Ça devient très difficile de trouver du matériel. Ça, c'est une de nos valeurs ajoutées parce que moi, ça fait longtemps que je travaille avec la Chine et que j'ai des brokers chinois en qui j'ai toute confiance. Ils arrivent encore à m'identifier des lots de machines. Mais ça devient dur et c'est hors de prix. Donc en ce moment, on vend très très peu. Et on avertit beaucoup les clients que c'est peut-être pas la meilleure période pour acheter du matériel. Là, je dirais que depuis 3 semaines, on n'a presque rien vendu. Parce que je suis démoralisant pour les clients. Faudrait peut-être attendre un peu. C'est pas les meilleurs lots. Là, on a mis en vente un lot de machines d'occasion parce que là, dans ce cadre-là, c'est valable. Mais aujourd'hui, acheter des machines neuves à 12 000 euros, moi, je veux pas les vendre.
Il y a une notion de durabilité aussi, enfin de pas décevoir, quoi. Parce que aujourd'hui, enfin, le Bitcoin, d'un point de vue financier, je crois que c'est l'actif le plus volatile au monde qu'on ait jamais eu.
C'est clair, donc,
au niveau émotionnel, l'ascenseur émotionnel, tu me racontais avec tes paysans là qui.
Ouais, les tout premiers clients qui nous ont permis de monter Big Block, c'était une clientèle test. J'ai un groupe d'amis qui sont agriculteurs dans mon département, dans le 44 là. C'est des gens que je connais bien, qui ont été clients dans mon ancienne vie quand on vendait des forêts durables. Et donc j'ai fait un test avec eux. J'ai demandé à 7-8 de ses copains de leur venir leur faire une petite présentation sur un nouveau truc. Du coup, ils sont venus avec les femmes, les copains des copains. Il y avait au moins 50 personnes. Et donc, je leur ai fait une présentation sur le Bitcoin. Je leur ai dit qu'on était en train d'ouvrir une ferme en Ukraine et qu'il y avait des machines à vendre. Et il y a 90% de l'assemblée qu'on a acheté. Ouais. Donc là, j'ai su que c'était possible de faire rentrer des gens de la terre. Et là, je parle, c'était en 2016, dans l'écosystème du Bitcoin. Et certains d'entre eux ont mis pas mal de sous sur la table.
Et comment ils le vivaient, là, les hausses de cours et les baisses de cours? Alors, on dit « je suis riche, oh, j'ai tout perdu, je suis
non,
riche,
alors
oh,
ils
tout
ont,
perdu ».
Ils n'ont jamais été riches parce que le mining, c'est l'inconvénient et c'est aussi l'avantage. C'est que c'est pas comme le Bitcoin. Tu achètes un Bitcoin aujourd'hui, s'il baisse de 40% demain, tu peux te faire peur et le revendre. Quand c'est du mining, on leur dit « c'est une toute petite somme qui arrive tous les mois sur votre wallet, vous n'y touchez pas ». Et à la limite, à l'époque, ils n'avaient jamais entendu parler du Bitcoin la veille. Donc je leur disais « ne mettez que ce que vous êtes prêt à, ce dont vous pouvez vous passer pendant les 5 prochaines années et ne regardez pas votre valette pendant 5 ans. Donc, il y en a qui ont fait ça et qui ont eu une très bonne surprise parce que là, ça fait 4 ans, 4 ans et demi, ouais, même 5 ans pour certains. et puis d'autres ont pas joué ce jeu-là. Ils ont été passionnés par l'histoire, ont regardé le cours tous les jours, voyaient que leur valette n'augmentait pas beaucoup, ont compensé en achetant un peu de Bitcoin, ont vu la chute arriver en 2018. Donc, il y en a certains qui l'ont mal vécu et d'autres là qui viennent de rouvrir leur valette et qui c'est génial, j'ai fait x3, j'ai fait x2. Voilà, ça dépend de l'appréciation de chacun, de sa manière de vivre ça. Mais effectivement, c'est ultra stressant de regarder les cours au quotidien. C'est un truc qu'il faut réserver aux professionnels, à mon avis.
Et comment on fait pour faire du business dans les coins les plus difficiles de parce qu'on a parlé du Congo.
Ouais.
Mais t'étais aussi en Ukraine.
Oui, on a commencé par l'Ukraine. C'est ce qui était une mauvaise idée d'ailleurs.
Bah, raconte parce que c'est fameux ça.
J'ai un de mes clients, Christopher, si tu vois un jour ce truc-là, m'a dit ne va pas en Ukraine. Ma femme est ukrainienne, c'est un pays très dangereux. Et on en avait conscience, mais on pensait être bien rencardé dans le pays, avoir les bons contacts au niveau du gouvernement et tout. Et en fait, ce pays-là, c'était au niveau politique, c'est très compliqué. T'as plusieurs autorités dans le pays et chacun veut son bout. Donc, on a été racketté par les douanes à l'arrivée des machines. Il a fallu que je me rende dans le pays, que je leur donne des sous en liquide pour pouvoir récupérer mes machines. Une fois qu'elles ont été en exploitation, ça faisait pas 6 mois que ça tournait, qu'on a eu les services secrets, donc le SBU qui a débarqué, qui voulait tout saisir avec un papier officiel. En fait, ils voulaient du bitcoin, donc ils nous ont demandé de leur filer 20 bitcoins. Il valait moins cher à l'époque, hein. Et on a négocié à 8, mais ça a duré une journée complète de négociation avec 7 gars du SBU dans la ferme. Et là, on s'est dit, bon, ben, l'Ukraine, c'est fini pour nous. Ce pays est décidément trop compliqué. Puis on est les dindons de la farce. On est des petits Français qui arrivent là. Tout le monde se frotte les mains en se disant, c'est des bitcoiners, les gars doivent être gavés. Et on va aller leur en prendre un peu. Mais on s'est rendu compte que le SBU gérait très bien les bitcoins. Ils savaient très bien accepter le bitcoin. Et on a tracé leur valette et tout ça. On a vu que, oui, ça faisait un moment qu'ils maîtrisaient le bitcoin et qu'ils en avaient beaucoup.
Et ouais, ça c'est quand même un aspect compliqué quand tu veux dire je vais me lancer dans le mining si pour que ça intéresse, c'est-à-dire faut.
Ah, t'es pas obligé de passer par là. Tu peux aller miner dans les grands pays du mining où on sait que l'électricité est correcte en termes de prix. T'as l'Islande, le Canada, ça c'est la solution de facilité et de sécurité. Moi c'est pas ça qui me plaisait, c'était d'avoir un avantage décisif en termes de prix d'électricité.
C'est-à-dire que Islande, Canada, t'es à combien en prix par rapport à
pouvoir,
l'Ukraine?
Tu vas pouvoir sortir une offre à tes clients à 6 cents de dollars, comme moi je peux sortir une offre à 3 cents.
Ah et donc t'es deux fois plus.
Je suis deux fois moins cher. Donc aujourd'hui ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ça rapporte tellement. Que d'avoir du simple au double au niveau du prix de l'électricité, ça change pas grand chose à la fin du mois. Mais si le cours chute et que le hash rate monte, comme il monte tout le temps, hein, autant le cours.
Alors faire... le hash rate,
en fait, c'est la concurrence mondiale, c'est la puissance de chacune des machines mises bout à bout, toutes les machines du monde. Et donc ce hash rate peut évoluer en fonction du cours. Plus le cours monte, plus le hash rate va avoir tendance à monter parce que les mineurs se disent, faut que je rachète d'autres matériels, c'est très juteux, donc. Je complète ma ferme, où de nouveaux mineurs arrivent, évidemment, dans les périodes de bullrun, comme ça t'as plein de curieux, qui disent, je vais me lancer dans le mining. Donc là, je vois des fermes s'ouvrir aujourd'hui, de nouveau en Europe, comme on avait fait nous en 2017, et on sait très bien qu'elles seront appelées à avoir beaucoup de mal dans les années qui viennent.
Donc il y a une notion, en fait, tu sais, sur les marchés, il y a la concurrence, ça peut être aussi destructeur dès l'instant qu'il y a des concurrents qui font n'importe quoi. Et qui investissent énormément d'argent à perte. Du coup, ça fait chuter la rentabilité du marché et ça menace éventuellement les gars sérieux qui étaient là et qui avaient un business viable.
Alors, on a l'habitude de ça, les mineurs ont l'habitude de ça, parce que y en a toujours des nouveaux, c'est complètement dingue. Moi, depuis que j'ai commencé, le hash rate a été multiplié par 120, je crois, un truc comme ça. Donc, et le prix, pratiquement autant, faut dire. Mais ça évolue très vite, il y a une concurrence qui se crée, et tant mieux, quand il y a de nouveau une baisse des cours, ça apure un peu le marché. Ouais. Ceux qui sont partis à l'aventure avec un kilowatt trop cher sont obligés d'arrêter leur activité. Et ça, c'est génial parce que ça met des nouvelles machines, enfin des machines récentes sur le marché, on peut les racheter. Donc ça, c'est un jeu que les vieux mineurs ont toujours fait, hein, racheter le matériel des jeunes mineurs qui ont fait des erreurs dans leur création au départ. Nous, on l'a fait, hein, parce qu'on a ouvert une usine à Nantes, donc à Orvault, dans la banlieue de Nantes, en 2017, avec une électricité aux alentours de 9 centimes d'euros. Il s'est avéré dès l'année d'après que c'était trop cher. Alors que moi, j'avais étudié le marché depuis 5 ans, et 9 centimes, ça marchait depuis 5 ans. Et là, l'année où on a démarré, ça marchait plus. Voilà. C'est comme ça, on est passé d'un bitcoin à 20 000 à un bitcoin à 4 000 en quelques mois. Et le hash rate lui a fait x18 cette année-là. Donc c'était très compliqué d'avoir un prix de bitcoin qui était divisé par 7 et un hash rate qui était multiplié par 18. La rentabilité, elle a fondu. C'était impressionnant. Un S9 à l'époque pouvait produire en francs, en euros, 100 euros par mois, et il s'est retrouvé à produire 2-3 euros par mois.
Et alors, pour rendre les choses beaucoup plus concrètes sur l'aspect du Bitcoin, du coup, t'es amené à commercer avec tous les pays de la planète les plus compliqués. Il y a
l'Iran, on a remonté, on est allé voir, mais c'était trop compliqué pour nous. Là c'était plus, fallait pas être juste aventureux, faut être un peu inconscient pour aller bosser dans ce pays-là. Comme au Venezuela. On est allé voir aussi au Venezuela, bon, c'est des pays trop compliqués pour nous.
Qu'est-ce qui les rendait compliqués?
Parce qu'on se rend compte que là, c'est pareil. Il y a des autorités. Déjà, en Iran, t'as deux autorités, une autorité civile et une autorité religieuse. Nous, on n'avait parlé qu'avec l'autorité civile et on s'est rendu compte qu'ils avaient pas ils auraient pas la main suffisante pour nous protéger, en fait. Quand tu vas voir le patron des douanes et que tu lui dis comment on fait rentrer du matériel de mining en Iran et qu'il te dit pas par les douanes parce qu'on n'a pas encore les codes douaniers, donc il faut prendre la route de la contrebande, et que le gars t'explique par où il faut passer pour pour faire rentrer tes machines en Iran, c'est pas le pays où il faut qu'on travaille.
Alors les pays avec lesquels tu travailles, c'est
Le Kazakhstan. Là, on est sur un gros projet au Tadjikistan, mais c'est un projet qui dure depuis 18 mois. Là, on est en direct avec le Premier ministre et le Président. Donc là, c'est un travail de longue haleine, parce qu'il faut les convaincre de... faut leur expliquer ce qu'est Bitcoin, il faut qu'ils y voient un intérêt. Et c'est pas très rapide. Mais dans ce pays-là, c'est hyper intéressant, parce qu'ils sont en train de faire un hub électrique pour optimiser leur production et leur distribution. Et donc, ça colle pile poil, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont pas mal de surplus aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose à faire sur l'hydro du Tadjikistan. Donc là, on a posé nos jalons, ça fait longtemps, on doit être à la 15e réunion, donc on espère que ça va sortir là cette année.
Et ce qui est intéressant pour donner justement plus de corps un peu à quoi peut être utile le Bitcoin, comme toi tu négocies et tu travailles dans les conditions les plus difficiles, tu m'expliquais que globalement tu vivais en Bitcoin au niveau de ta société et que le dollar, l'euro, c'était déjà loin quoi. Comment ça marche justement? Quel est l'intérêt du Bitcoin? À quoi ça sert de façon opérationnelle du Bitcoin dans une boîte qui fait du commerce international?
C'est juste quand on se passe du Bitcoin et qu'on est obligé de revenir à un virement bancaire international, on a l'impression de revenir à l'âge de la pierre. C'est juste dingue. Moi, j'ai fait 3 virements vendredi là. J'y ai passé mon après-midi. C'est des virements internationaux. Hein. Donc c'est juste génial pour quelqu'un qui fait du commerce à l'international. Dès lors que.
Pourquoi une après-midi? Explique pourquoi c'est.
Parce que il faut à chaque fois que je veux valider un virement, ça m'envoie un truc sur mon téléphone, un code que je dois rentrer, je dois signer de manière numérique mon virement. Enfin, nous on est à la caisse d'épargne. Je ne sais pas si c'est la plus moderne en termes de service pour le commerce international. Peut-être qu'il y a des banques qui sont beaucoup plus opérationnelles. Mais bon, simplement c'est long, c'est compliqué, c'est cher. Un virement international, c'est hors de prix, quoi. Avec entre le change et la commission de la banque, ça peut être entre 2 et 5%. Donc, quand on voit 100 000 euros, tu payes entre 2 000 et 5 000 euros. Quand j'envoie 100 000 euros en Bitcoin, je paye 10 euros. Donc, c'est tout. Et c'est immédiat. En plus, nous, dans un business où on a besoin de réactivité. Comme je te l'ai dit, là, il y a pénurie de machines. Donc, quand tu identifies un lot de machines, il faut le payer tout de suite. Le broker, lui, il attend l'argent dans l'heure. Il attend pas l'argent une semaine après.
Ah, en une heure?
Ah oui, bien sûr.
Ah oui.
Bien sûr.
C'est rapide, ça.
Ah oui, mais si, on est dans un milieu où tout le monde a du Bitcoin. Donc, si moi, j'attends un transfert international pour payer mon broker en Chine, je suis sûr que le lot me passe sous le nez. Même si le virement se passe bien. Et si le virement se passe bien, ça peut prendre 4-5 jours. Si ça se passe mal, ça peut prendre 3 semaines. Combien de fois j'ai viré de l'argent en Chine qui m'est revenu parce que la banque chinoise disait, oula, c'est trop gros, on n'a pas l'habitude de ce client-là, puis renvoyer l'argent. Puis après, ils demandaient à leur client qui est ce fournisseur ou ce client en France, machin. Même nous, on fait des virements. Là, par exemple, on fait des virements au Congo à notre transitaire. À chaque fois, la banque bloque le virement et me demande un justificatif. Quel que soit le pays où je suis obligé de répondre à ma banque pour leur justifier pourquoi j'envoie 500 balles à un transitaire au Congo. Donc, ce système n'est pas efficace pour faire du commerce international. Et le nôtre est beaucoup, beaucoup plus efficace, plus rapide et beaucoup moins cher.
Et c'est parce que tu utilises le dollar que ça pose problème avec le Congo ou l'euro?
Non, pas du tout, parce que le Congo, c'est la RDC, il y a une espèce d'embargo à cause de la vente des armes sur ce pays-là, et donc les banques ont ça qui clignote dès qu'on envoie de l'argent au Congo. Quand on envoyait de l'argent en Ukraine, c'était pire, parce que là, c'est vraiment un pays qui est blacklisté. Donc les gouvernements décident avec quel pays, toi, entrepreneur, tu vas pouvoir faire du business ou pas. Je trouve ça dingue. Donc le Bitcoin, là aussi, permet de se laver les mains de ces contraintes-là et de décider que moi, si j'ai un interlocuteur en Ukraine qui est sympa et qui est honnête, pourquoi je travaillerais pas avec lui? Et là, du coup, je peux le faire.
Et la Chine, tu travailles aussi avec les Chinois?
Ouais.
Comment ça se passe, la Chine? Parce que c'est pas réputé être les plus cool en termes de démocratie, de nouvelles idées et de disruption du système bancaire. Mmh. On parlait, ces choses, ton point de vue est intéressant justement sur l'approche chinoise qui est une dictature par rapport au Bitcoin.
C'est très intéressant parce que l'attitude de la Chine a beaucoup changé, hein, mais énormément changé. Bon, ils ont beaucoup soufflé le chaud et le froid. Moi, je dis toujours, toutes les infos qui nous viennent de Chine, faut prendre avec des pincettes parce que ils nous communiquent bien ce qu'ils ont envie de nous communiquer. Et l'espèce de guerre du gouvernement chinois contre le Bitcoin a été quand même assez dense, hein. Ils ont interdit les exchanges dans leur pays.
Avec de quelle date à peu près pour donner les...
Les exchanges, je crois que c'est 2016.
Ils ont interdit en 2016.
Ouais. Ils ont interdit non pas l'utilisation du Bitcoin, mais que le fait qu'il y ait des exchanges dans leur pays. Mais ils n'ont pas interdit le mining. L'année dernière, en début d'année 2020, il y a eu une annonce qui a fait le tour de toute la presse internationale, comme quoi la Chine interdisait le mining dans son pays. Et je me rappelle, j'avais été interviewé par le journal du coin. Je leur avais dit, mais c'est encore une grosse connerie de FUD et tout ça. Non, c'est pas vrai. Le minage sera jamais interdit en Chine. Bon, bah, tu vois, 2 ans après, ou 1 an et demi après, j'avais raison. Le minage n'a pas du tout été interdit en Chine.
Alors, ils l'ont interdit, ils l'ont réouvert ou ça, ils l'ont annoncé, ils l'ont jamais fait?
Ils n'ont jamais annoncé que c'était interdit. En fait, c'est les journalistes, hein, font des raccourcis. Et ça a juste été inscrit dans la liste des industries polluantes sur lesquelles il fallait travailler. Voilà. Donc, au sein du gouvernement chinois, là, t'as aussi des écologistes, des gens qui ont des idées, qui disent, tiens, il faudrait faire comme ci. Puis après, le business continue d'avancer. Dans cette liste-là, t'as des industries qui sont bien plus polluantes que le Bitcoin, qui ont été identifiées en 2006 ou en 2007, et des industries qui continuent de tourner en Chine pour autant. Donc, c'était juste ça, une alerte. Et d'ailleurs, il y a quand même eu des suites, parce que là, on entend maintenant que la Mongolie intérieure va interdire totalement le mining sur ses centrales au charbon. Ce qui est une super nouvelle, mais là encore, je la prends avec des pincettes parce qu'on est le 27 avril et qu'ils ont annoncé ça pour la fin avril. Donc, il reste 3 jours pour que tout le mining de cette région-là s'éteigne. Nous, on serait ravis qu'il s'éteigne parce que ça ferait tomber 8-10% du hash rate. Très provisoirement, parce qu'évidemment, les Chinois ont prévu de mettre leur machine ailleurs. Parce que cette histoire de la Mongolie intérieure, d'abord, ça a 2 avantages pour nous si ça s'arrête. D'abord, ça fera moins de mining carboné. Et puis ça fera un argument de moins aux Antilles qui nous disent toujours le Bitcoin c'est dégueulasse, c'est miné en Chine dans les mines de charbon, enfin dans les centrales au charbon de la Mongolie intérieure. Donc là, cet argument-là ne tiendrait plus. Mais les Chinois savent depuis longtemps que la Mongolie va freiner et ont déjà prévu leur plan de sortie au Kazakhstan, dans le Sichuan, ainsi de suite. C'est pas les surplus électriques qui manquent en Chine. Ils auraient de quoi développer 20 fois plus de mining, 30 fois plus de mining avant d'avoir bouffé tous les surplus de l'hydroélectricité. Je te parle même pas du solaire et de l'éolien.
Non, parce qu'ils ont construit large, parce qu'ils prévoient une expansion grande et du coup, il y en a pour 10 ans de surplus devant, c'est ça?
Comme d'habitude, quand on fait de l'hydro, même si c'est un énorme barrage à la chinoise, ils prévoient plus gros que la demande du moment. Et encore eux, parce qu'ils ont une démographie qui bouge quand même. Donc, c'est cohérent, il y a des surplus. Ça fait un petit moment, mais j'ai fait des calculs il y a 6 mois où on voyait que le mining aujourd'hui consommait peut-être 2,5% des surplus de l'hydroélectricité mondiaux. Donc on a encore une capacité de développement dingue avant d'attaquer dans le dur et de prendre de l'électricité au monde, à l'autre monde, à l'ancien monde en gros. Donc pour l'instant, c'est complètement neutre. En termes de production électrique pour le Bitcoin, il y en a très peu. Et c'est des productions qui existaient. Par exemple, au Kazakhstan, il y a une grosse production au charbon. Donc, les gens disent, regardez, cette production-là n'existait pas avant, parce que, il n'y avait pas le mining. Or, le Kazakhstan n'a pas changé en termes de production. Ils produisent pareil qu'avant, sauf qu'il y en a une partie maintenant qui reste dans le pays pour faire du mining, alors qu'avant, c'était vendu en Russie. Donc, la Russie se retrouve en déficit parce qu'ils ont plus cette énergie hyper bon marché qui venait du Kazakhstan. Ils sont obligés de se casser la tête pour savoir comment ils vont compenser ça. Et incroyable, ça tombe bien, ils ont 4/5 de leur parc hydroélectrique qui est à l'arrêt en Russie. Et ça coûte cher à remettre en service. Mais quand t'as plus la possibilité d'acheter un jus à très vil prix, t'es bien obligé de travailler sur ces chantiers-là. Donc finalement, même l'effet papillon fait que c'est très sain dans la régulation de la carte électrique. C'est un vrai booster. C'est vraiment quelque chose qui change la donne.
Et sur la Chine, donc tu dis, ils ont interdit les exchanges. Donc ouais. Ça, faut expliquer ce que c'est qu'un exchange parce que je pense que ça va pas passer tout ça.
C'est une banque en ligne pour les cryptos, en fait.
Donc ça permet d'échanger, d'acheter, de vendre des cryptos.
Oui, et puis aussi de faire du trading, ouais, comme tu disais. Donc ces exchanges-là, il y en avait un en Chine qui était très prometteur, qui s'appelait Binance. Donc la Chine a dit à Binance, cassez-vous de notre pays. Et donc c'était une erreur commerciale, parce qu'aujourd'hui Binance est le numéro 1 mondial. Et ils sont basés, je crois, à Malte ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils sont plus en Chine. Et la Chine va faire revenir les exchanges, c'est certain, parce qu'ils sont en train de fabriquer, enfin ça y est, il est au point, leur crypto yuan, et donc ben, s'ils veulent une crypto-monnaie, il va même falloir qu'ils puissent l'échanger quelque part.
Mais comment on achète du yuan numérique? C'est une grande question que beaucoup de gens se posent.
Pour l'instant, on n'en achète pas. Pour l'instant, on n'achète pas, mais après, les Chinois vont les échanger contre leur yuan, et on va les retrouver sur les exchanges, donc ça va devenir un stablecoin assez satisfaisant, parce qu'aujourd'hui, si tu veux... Pour les traders, comment ça se passe?
Stablecoin.
Stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur une monnaie fiat. Donc, tu peux avoir un stablecoin basé sur le dollar, par exemple. Tu avais dû entendre parler du projet de Facebook de faire une monnaie.
Libra.
Libra, c'était un stablecoin basé sur un panier monétaire de différentes monnaies. L'USDC ou l'USDT, ça, c'est des monnaies numériques qui sont basées sur le dollar. Donc, en gros, tu as une boîte qui a beaucoup d'argent qui dit, voilà, moi, j'ai un stock de 2 milliards de dollars. J'ai mes 2 milliards de jetons qui ont une contre-valeur en dollars. Et donc, c'est un stablecoin. Et donc, aujourd'hui, tu n'as pas de stablecoin d'État. Ça va être le premier État, la première banque centrale à en émettre un. Et c'est très attendu parce que aujourd'hui, les stablecoins sont émis par des boîtes privées dont on ne sait pas du tout si elles ont effectivement la contre-valeur. Est-ce qu'ils ont vraiment autant de billets d'un dollar qu'ils émettent de jetons à un dollar? Ah, ça c'est et le plus gros c'est Tether et en ce moment il subit un peu la pression de la SEC aux États-Unis parce que il y a un gros doute sur leur réserve par rapport à ce qu'ils ont émis.
Et à quoi ça sert un stable? Parce qu'il y a une question qui revient très souvent, c'est de dire voilà, une monnaie numérique, mais de base ma carte bleue est déjà numérique. Oui. C'est quoi l'intérêt d'un yuan numérique par rapport à un yuan tout court? Pour pas dire un euro numérique et un euro tout court.
Ben c'est justement de pouvoir intégrer les exchanges. C'est qu'aujourd'hui, on parlait de trading. Un trader, il voit le bitcoin monter aujourd'hui à 60 000 dollars. Il dit, tiens, demain, il va chuter. Donc, il va vendre une partie de ses bitcoins en espérant qu'il va baisser pour pouvoir en racheter. Mais il faut pas qu'il les vende et qu'il sorte de l'exchange. Sinon, c'est trop compliqué pour en rentrer. Donc, il va le transformer en stablecoin. Et donc, s'il voit le cours baisser, il va redépenser ses stablecoins pour acheter du bitcoin, tout simplement. Donc, il reste dans l'exchange et il transfère pas en euros. Et tant mieux, parce que c'est au moment où tu transfères en euros que tu payes des impôts sur tes plus-values de bitcoin. Donc, ça se joue comme ça reste dans l'exchange. Et aujourd'hui, tu prends un risque à chaque fois que tu transformes en USDT ou en USDC, parce que peut-être qu'effectivement, la SEC a raison, il y a peut-être quelque chose. Donc, ces boîtes-là peuvent ne pas être interdites ou finalement ne pas réussir à tenir leurs engagements sur le long terme.
Oui, si le patron d'un stablecoin, il part avec la caisse, par exemple,
ce risque existe. On a tendance à l'oublier, mais ce risque existe. Évidemment, quand on aura le stablecoin américain qui va arriver, garanti par la Fed, les gens se diront, celui-là, je peux y aller tranquille. Mais le stablecoin chinois va être beaucoup plus intéressant parce qu'il y a moins d'impression monétaire en Chine et il sera plus stable que le dollar.
Mais quel est l'intérêt d'un yuan numérique plutôt qu'une carte bleue en yuan qui est déjà numérique, puisqu'une carte bleue, il n'y a plus de billets?
Ben parce que la carte bleue, tu peux pas la mettre sur un exchange, c'est tout. Donc le projet de la Chine, il est très simple, hein, c'est d'envahir le monde avec sa monnaie, d'en faire une monnaie mondiale qui va prendre le pas sur le dollar. Ils sont en train d'y arriver parce qu'ils vont être prêts avant les Américains et avant les Européens. Les Européens, c'est pas faute d'avoir expliqué en long, en large, en travers, à Bercy et à l'Assemblée nationale, dès 2017, avec le patron de Ledger, on avait, surtout lui, avait défendu l'idée dès 2017, on avait été reçu en même temps à l'Assemblée, sur l'importance de vite travailler sur un euro numérique. On n'a pas été entendu du tout, quoi. On voit bien, hein, Christine Lagarde dit aujourd'hui qu'il faut 3 ans pour sortir un euro numérique.
Tu me disais qu'il te fallait.
Il est prêt, l'euro numérique. Tu demandes à Condense sa banque. C'est une boîte française qui est partie en Suisse. Condense sa banque, il est prêt avec son euro numérique, il peut le ressortir dans 3 jours.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code est prêt, c'est ça que tu veux dire?
Bien sûr, on sait le faire, on sait le baser sur différents protocoles existants. Donc techniquement, l'euro numérique, il peut sortir demain. C'est au niveau réglementaire qu'il faudra du temps pour tout caler. Mais 3 ans, c'est délirant.
C'est peut-être 3 ans qu'il faut, réglementairement parlant, d'un point de vue, faire voter ça, en causer aux 28 États.
En tout cas, s'ils mettent vraiment 3 ans, il sera trop tard. Il sera trop tard. Notre euro sera complètement à la ramasse parce que la Chine l'a bien compris. Maintenant, ça se joue sur les exchanges, la monnaie. Et ils ont compris que le bitcoin ne s'arrêterait pas, que ça prendrait beaucoup de valeur et qu'il fallait être dessus. Donc, à chaque fois que tu vas avoir des échanges entre le bitcoin et le stablecoin, des traders et tout, et le stablecoin yuan, le yuan va se renforcer. C'est une monnaie qui va devenir de plus en plus populaire, acceptée par des Européens dans leur esprit, je veux dire.
Et en fait, ce que je voulais te faire dire tout à l'heure, dans la différence entre le yuan numérique et le vrai yuan, c'est qu'au milieu, on a chanté les banques. C'est-à-dire qu'un yuan numérique, c'est de la monnaie banque centrale, et il est directement dans la poche de monsieur, madame, j'aurais dit Michu en France, je sais pas comment c'est en Chine, mais
ça c'est sûr.
Alors, et si moi je veux du yuan aujourd'hui, je peux pas en acheter facilement. On peut en acheter dans ma lettre, j'en vends, etc. Ben, pas de souci, mais je dis comment en acheter. Mais c'est compliqué parce que au milieu il y a les banques. Donc on passe par le marché obligataire. Donc il faut être sûr. Voilà. Alors que si jamais il y a un yuan numérique, je me pointe sur mon exchange préféré et j'ai du yuan numérique
à volonté immédiatement et sans frais.
En claquant des doigts. Quoi.
Et sans frais, c'est ça aussi qui est génial dans les cryptos, c'est que t'as accès à ce marché-là. Avec très très peu de frais, sans avoir besoin d'un spécialiste courtier, comme pour la bourse, tu vois, la bourse c'est pas gratuit, tu payes du courtage. Là c'est pas le cas, tu te débrouilles tout seul avec ton exchange, et tu achètes ton bitcoin ou ton jeton, quel qu'il soit, au même prix qu'une très très grosse entreprise qui est capable d'en acheter pour des milliards. Tu l'achètes le même prix. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça, mais ce jeton est accessible au prolo qui peut mettre 100 euros au même prix qu'à Elon Musk. Et ça, c'est très important. Parce que pour tout le reste, c'est pas le cas. Aujourd'hui, t'as le patron de LVMH, Arnaud, il peut acheter ses propres actions en ayant emprunté de l'argent à taux négatif. Alors que toi, tu peux aller emprunter demain à ta banque pour acheter ta maison, jamais ton taux sera négatif. Donc, il y a un véritable avantage aux plus riches dans le système traditionnel et que tu retrouves pas dans le système des cryptos.
Puis, il y a un combat aussi derrière, hein, je reprends sur ma partie financière, économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe, on est dans une phase d'expansion monétaire, donc de destruction de la monnaie qui est jamais vue.
Jamais vue.
On bat tous les records.
Ouais.
Et en Asie, en Chine, ils sont dans une phase de, peut-être pas de contraction, mais de ralentissement. Donc, ils limitent l'expansion, voire la contraction. Donc, c'est un phénomène complètement inverse. Ce qui veut dire que le yuan est voué à s'apprécier, parce qu'il y en a de moins en moins, ou il grandit moins vite que les autres, alors que nous, la valeur se détruit. Donc, quelque part, est-ce qu'ils ont pas moins peur du bitcoin en Chine, parce qu'ils savent que leur monnaie, elle est, c'est une monnaie, alors que nous, on n'est pas pressé de voir le bitcoin arriver, parce que si c'est un étalon, si ça devient un thermomètre qui indique la dégradation de l'euro et du dollar, Biden et Lagarde, ils vont commencer à tordre du nez, quoi. En disant, vous êtes sympa avec votre truc, mais si on pouvait pas le voir, ça nous arrangerait, quoi.
Alors, il y a de ça, mais je suis même pas sûr que la réflexion aille aussi loin que ça. Je suis même pas sûr.
En Chine?
Alors, en Chine, ils ont compris l'intérêt, en tout cas, à avoir la première monnaie numérique d'État, donc le premier stablecoin, parce que je te dis, ils vont prendre un avantage considérable et mondial. C'est-à-dire que tu vas avoir des Américains et des Européens et des gens de partout qui vont avoir du yuan pour dans leurs exchanges.
Ça veut dire que ce sera le stablecoin de référence?
Bien sûr. Il est garanti par l'État chinois. Ça paraît plus solide que d'être garanti par la compagnie privée Tether, qui est sous le contrôle de la SEC en ce moment et tout ça.
Donc toi, demain, s'il y a un yuan numérique que tu peux acheter et vendre comme ça, tu auras un risque sur le taux de change, mais en tout cas, tu passeras plus par le dollar, tu passeras par le yuan, ou, enfin, tu passeras plus par le stablecoin dollar, mais par le stablecoin yuan.
Pourquoi pas? Alors, je parlais tout à l'heure de payer nos fournisseurs à l'étranger, notamment en Chine. C'est nous qui avons imposé ça quand on payait les transporteurs en bitcoin. Au début, les mecs, ils en voulaient pas. Hein. Maintenant, ils veulent que ça. Mais alors, on a encore simplifié les choses. On envoie du stablecoin, on n'envoie plus du bitcoin. C'est-à-dire qu'on vend, on échange du bitcoin contre du stablecoin, de l'USDT par exemple.
Du dollar.
Et on leur envoie du dollar. Ça leur évite le risque de change pendant les 10 minutes où la transaction va durer. Parce que en 10 minutes, le bitcoin peut perdre 2 ou 3%. Et un broker, par exemple, notre broqueuse, elle prend 3% sur son business. Elle fait des volumes, mais avec des toutes petites marges. Donc, si elle perd 3% sur la transac, elle est cuite. Donc, très vite, on est passé à un stablecoin. Quand il y aura un yuan numérique, elle me demandera pas de l'USDT, elle me demandera du yuan numérique, c'est certain. Donc, on sera obligé de l'utiliser.
En fait, c'est ça le gros secret du yuan numérique à l'échelle internationale. C'est-à-dire que, globalement, on en aura, enfin, tous les gens qui passeront à la crypto, utiliseront le yuan numérique comme stablecoin.
Bah, peut-être coup, pas tous. Il y a peut-être des gens qui seront opposés à faire travailler le gouvernement chinois parce que c'est communiste et que c'est une dictature et tout ça. Mais ça sera efficace. Ça va être très efficace. Imagine toutes les entreprises qui travaillent avec la Chine aujourd'hui, qui achètent des choses en Chine. Les Chinois vont leur demander de les payer en yuan numérique, bien sûr. Donc ça va aussi contraindre les gens à aller sur des exchanges, à avoir une partie de leur trésorerie en crypto. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Quand ton fournisseur chinois te dit, moi, j'en veux plus de votre virement en euros, qui prend une semaine à arriver, qui vous pompe 5% de la somme en frais, non, moi, je veux du yuan numérique, comme ça, je suis payé dans la minute et tout ça. Ça viendra. Ça va être très, très rapide.
Donc, très rapide, c'est combien? Allez, on va essayer de...
Moins d'un an.
Ah oui, ouais, rapide, quoi.
Ouais, moins d'un an. D'ici la fin de l'année, le yuan sera, à mon avis, sur une grosse partie des exchanges. Et dans l'année qui va suivre, les entrepreneurs européens et américains seront obligés de s'y mettre à la crypto.
Et quel est le rôle de ce yuan numérique qui, du coup, fait la promotion du système crypto, c'est-à-dire des exchanges, des wallets, etc., par rapport au bitcoin? À savoir, si jamais bitcoin devient un concurrent de la monnaie, est-ce que ça lui permet de, qu'est-ce qui pourrait protéger, est-ce que ça protège un peu le bitcoin des attaques réglementaires, au moins en Asie? Est-ce que ça a un lien, ou est-ce que les Chinois pourraient très bien dire, bah, le yuan numérique, ça va bien, le reste, allez vous faire...
Je vois pas l'intérêt de sortir un yuan numérique si c'est pour ne pas aller sur les exchanges. Et une fois que le yuan est sur les exchanges, il est apprécié en bitcoin. C'est-à-dire que sur un exchange, ta fortune, elle est estimée, enfin, tes avoirs sont estimés en bitcoin. Tu peux bien, moi, sur Binance, je n'ai que des alts. J'ai une toute petite somme, je rigole avec, mais le montant total de mes alts est exprimé en 0,01 bitcoin.
Donc les altcoins, c'est tout ce qui est
pas bitcoin. Voilà. Ouais. Donc, c'est, sur les exchanges, la monnaie référente, l'étalon, c'est le Bitcoin. C'est déjà comme ça. Dans le monde de la crypto-monnaie, le Bitcoin est un étalon. Il vit dans tous les exchanges et établissent que ton compte représente X Bitcoin, même si tu en as zéro. Même si tu n'as que du stablecoin, il va t'exprimer ton compte en Bitcoin. Donc, le WAN, on sera là. C'est-à-dire qu'il sera étalonné en fonction du prix du Bitcoin. Si tu as l'équivalent de 3000 euros en WAN, il va te dire, vous avez 0,0089 Bitcoin. Voilà.
Et ça, tu penses qu'ils en sont conscients de ça?
C'est pas... Ah oui, ils en sont conscients. Oui. Mais ils sont hyper en avance. Ils ont 60% des mineurs dans le pays. Donc, le Bitcoin, ils en produisent. 60% des Bitcoins produits sortent de Chine.
C'est un risque pour la sécurité?
Qu'il y ait 60% du mining? Oui, bien sûr, ça a toujours été... pour moi, ça n'a jamais été satisfaisant qu'un pays tienne plus de la moitié du mining, ouais, bien sûr.
Parce que qu'est-ce qui peut se passer si on met un flic derrière chaque mineur?
C'est très compliqué, hein, parce que ça représente quand même quelques centaines de fermes étalées dans un pays immense. Je vois difficilement la Chine réussir à arrêter tout le mining d'un coup. Enfin, pour nous, ça serait une aubaine de fou, hein, mais... Mais voilà, l'idée, ça serait qu'ils prennent le contrôle des 60% de hash rate et qu'ils décident de faire une attaque à 51%. Donc, ce qu'on appellerait ça serait même plus une attaque à 51%, là, ça serait une attaque Goldfinger. Mais vu ce que ça rapporte à l'État qui ferait ça, c'est-à-dire rien, ça va juste mettre un petit coup au moral des investisseurs Bitcoin et ça va faire chuter le cours. Et c'est tout ce que ça peut faire.
Ça tue le Bitcoin, ça?
Ah non, ça tuera juste son cours le temps que...
Alors pourquoi
le temps qu'on digère l'information que finalement la blockchain Bitcoin est on peut la corrompre. Mais on va corrompre le dernier bloc, donc ça a que très peu d'incidence. Il y a des blockchains qui ont subi des attaques à 51%, qui tournent très bien aujourd'hui, et qui continuent d'avoir de la valeur, on continue de mettre des informations à l'intérieur qu'on estime pas corruptibles, parce que la blockchain est quand même sécurisée malgré ses 51%. Ethereum classique a subi une attaque l'année dernière, et aujourd'hui c'est quand même elle fonctionne très bien la blockchain.
Et ça veut dire quoi? C'est juste le dernier bloc corrompu, là, en français?
Bah, ça veut dire que tu peux pas remonter la blockchain, même si tu fais une attaque à 51% et que ton bitcoin reste ton bitcoin. T'as pas à t'affoler, quoi.
Mon demi-bitcoin, par exemple, qui est sur la blockchain, et après-demain, je vois dans le journal, attaque à 51%, le dernier bloc est corrompu. Ça veut dire quoi? Que mon demi-bitcoin...
Non, tu perds pas ton bitcoin pour autant. Les gens qui avaient de l'Ethereum classique ont pas perdu leur jeton. Et il y a eu une attaque à 51% en 2020. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce que la Chine fasse ça. Je pense qu'ils y ont beaucoup réfléchi et oui, ils ont tout à gagner. Ils produisent 100% des machines de mining du monde. On est assez stupide en Europe ou aux États-Unis pour pas avoir vu ce marché et pas avoir voulu se mettre dedans. C'est pas une question de compétence, hein, parce que les Chinois, pour l'essentiel, ils assemblent les puces Asie qui les achètent à Taïwan ou aux États-Unis et ils les assemblent en Chine. On n'est pas fichu de faire ça, nous.
Voilà. Oui, c'est un travail peu qualifié.
Bah, il y a de la recherche et du développement chez les leaders, chez Canaan ou chez Bitmain. Mais tous les autres, t'as 18 fabricants d'Asie qu'en Chine. T'en as 3 qui ont de la recherche et du développement et puis les 15 autres qui copient. Comme ils ont toujours fait avec nos produits à nous. Et nous, aujourd'hui, on a capacité d'aller prendre des machines en Chine. C'est totalement open. C'est une technologie qui est pas protégée. Donc, tu peux tout à fait copier une machine Bitmain et l'assembler en France. Et même si elle te revient 30% plus cher que le coût chinois, les marges sont juste délirantes parce que ils nous vendaient des machines à 1 500 € il y a 6 mois qui vendent aujourd'hui 10 000 €. Tu vois, donc j'estime qu'en S19 ça doit être peut-être 300 ou 400 € le coût de fabrication. Donc même si nous on fabrique à 600, il y a une marge de fou à faire. Donc on est en train de lancer ce projet-là. On avait déjà motivé l'électronique française en 2017. On les avait fait venir à Orvault pour étudier le marché et tout ça. Les mecs nous ont pris pour des extraterrestres, quoi. Ils avaient jamais entendu parler du mot Bitcoin avant, donc c'était trop tôt. Là, on est sur un projet à Montceau-les-Mines. C'est un projet qu'on porte avec la communauté de communes pour refaire partir l'usine Veolan qui était là-bas. Et dans ce projet, parce que Veolan, c'était de l'assemblage de cartes électroniques, dans ce projet, il y a le fait de pouvoir assembler des ASIC ici. Pas forcément sur la mode chinoise, avec des machines personnelles, ils font des petites machines, on sait pas pourquoi. C'est parti de l'idée qu'on minait chez soi, tu vois. Donc aujourd'hui, tu as des milliers de machines personnelles qui travaillent tout ensemble. Donc on pourrait envisager, comme fait Bitfury, de faire des blocs beaucoup plus gros. Vu qu'on sait que ça n'ira jamais chez des particuliers de toute façon. Donc ça, on est en train de travailler là-dessus et j'espère que ce projet va sortir et qu'on sera les premiers en Europe à assembler de l'ASIC. Parce que t'as un véritable marché. Il y a plein de gens pour qui c'est compliqué d'acheter en Chine et qui seraient contents d'avoir une concurrence à l'international et voilà. En plus, on pourrait tout à fait adapter d'autres manières de calculer nos prix. Parce que tous les fabricants d'ASIC font pareil. Quand le cours du Bitcoin monte, ils calculent la rentabilité de leur ASIC pour que, en un an, tu les rentabilises. Donc le prix augmente aussi vite que le cours du Bitcoin. Sauf si le hash rate monte de manière proportionnelle. Enfin voilà, ils tiennent pas du tout compte de leur coût de revient. Ils tiennent compte uniquement de combien de temps le client va mettre pour rentabiliser sa machine, pour la rembourser, en fonction du cours du jour et du hash rate du jour. Donc de toute façon, c'est toujours très aléatoire. Mais à un moment T, il faut que ta machine en un an soit rentabilisée. Sinon, ils sont hors des clous et ils baissent le prix.
Et alors, pour en finir avec la Chine, en gros, tu dis qu'au début, ils étaient très hostiles et qu'ils ont essayé de serrer la vis très fort.
Ils ont serré.
Ensuite, ils se sont dit, bah, finalement, notre truc, c'est pas sûr que ça réussisse, c'est qu'on arrive à étouffer le poussin dans l'œuf, quoi. Donc, finalement, ils ont pris l'optique inverse et de judo, quoi. Ils accompagnent le mouvement et ils se placent en leader dessus, quoi. C'est sentiment.
C'est juste mon sentiment, encore une fois. Ni moi, ni personne n'est expert de ce qui se passe en Chine. Je crois que même les gens qui vivent là-bas n'arrivent pas à voir tout le jeu des autorités chinoises sur ce sujet-là. Mais en tout cas, oui, je pense que la réussite de Binance a pu servir aussi. Ils se disent, mince, on a laissé partir aujourd'hui une boîte qui est juste énorme. Quoi, hein. Binance, c'est une capitalisation dingue. Hein. C'est plus que toutes les banques françaises. Même, je crois bien, autant que toutes les banques européennes. C'est une boîte dingue. Donc, c'est assez révélateur, quoi, je pense, pour un gouvernement de se dire, mince, là, quand même, on est peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Peut-être que c'est ça. En tout cas, l'industrie du mining est aussi porteuse, hein, crée de l'emploi, fait du business. Donc, je pense qu'ils sont dit, de toute façon, on n'arrive pas à tuer le truc dans l'œuf, c'est impossible. À chaque fois qu'on tape sur Bitcoin, son prix monte. Parce que c'est le cas, hein, quand ils ont interdit les exchanges en Chine, il n'y a jamais eu autant d'échanges en Chine. Tu regardais les moteurs de recherche, le mot Bitcoin, il a bondi. Dès que les exchanges ont été interdits, ça a fait x3 les recherches sur l'équivalent de Google. Donc, voilà, ils se sont rendus compte que c'était inefficace. Et au contraire, le Bitcoin, plus tu lui tapes dessus, plus il est solide. Peut-être qu'ils ont décidé d'arrêter de taper dessus et de se l'approprier. Moi, c'est ma théorie depuis longtemps déjà. J'exprime cette idée-là depuis au moins 3 ans.
Et pourquoi on est mou du genou en Europe ?
Alors,
tu me racontais des trucs où t'as causé à des mecs quand même de haut vol, quoi, en responsabilité au niveau européen ou français. Mmh. Pourquoi ? Je veux dire, voilà.
Mais j'arrive pas trop à comprendre. Il y a différentes idées. D'abord, nous, il était temps de parler des crypto-monnaies, de garder le leadership, parce qu'en plus, la France avait énormément d'avance sur tous les pays d'Europe. C'est dingue, le plus vieil exchange du monde est à Paris, ça s'appelle Paymium. Le leader mondial des valettes, Orlin, c'est Ledger, c'est une boîte qui est à Blois. Tu vois, on a eu le premier exchange physique qui s'appelait la Maison du Bitcoin à Paris. Il y avait rien d'équivalent en Europe. Donc on avait toute cette technique, tous ces leaders, des types qui avaient eu une vision dès 2010-2011 comme Pierre Noisade chez Paymium. Dès 2010, il a décidé de monter Paymium. Ces mecs-là avaient une avance de dingue. C'est un polytechnicien, tu vois, c'est pas un rigolo. Il a jamais pu développer son exchange parce que les banques l'ont pas suivi. Moi, si j'envoie 100 000 euros chez Binance, ils vont les prendre. Si j'envoie 100 000 euros chez Paymium, il va avoir une enquête de dingue, ils vont pas les prendre. Maintenant peut-être, mais à l'époque, en 2015 ou 2016, c'était pas le cas. Donc ils lui ont mis des bâtons dans les roues, de fou, quoi.
Pour bien comprendre ces bâtons dans les roues, raconte-nous l'histoire avec le fisc, là, parce que ça, si tu veux, parce que je trouve ça tellement typique de l'âme des structures en France, de l'âme de l'administration, de son essence.
Bah, il y a un truc rigolo, c'est quand on a été invité en 2018 à Bercy pour le Blockchain Day, il y a eu le Blockchain Week. Donc on a été invité le matin à Bercy, donc tous les entrepreneurs de l'écosystème. Il y avait Bruno Le Maire qui nous a fait un très beau discours. Et l'après-midi, on est parti à l'Assemblée nationale. Là, c'est Richard Ferrand qui nous a fait un discours, qui a dit qu'on était vraiment l'avenir de la France, tout ça. Et le jour même, j'ai reçu un avis des impôts comme quoi on avait un contrôle de TVA. Voilà. Et ce contrôle de TVA était motivé par un autre contrôle, enfin une autre visite des impôts qu'on avait eue quelques mois avant. Visite réputée amicale, hein, c'est ce qu'ils nous avaient dit. On cherche à comprendre, on n'y comprend rien à ce que vous faites. Donc, on leur a tout ouvert, tout expliqué, le Bitcoin, faut en acheter les amis et tout ça. Et on s'est pris en contrôle de TVA dans les mois qu'on suivit. Hein, parce qu'ils estimaient qu'on n'aurait pas dû récupérer la TVA sur l'électricité. Hein. Mais alors, pourquoi on pourrait pas récupérer la TVA sur l'électricité? Bah, parce que ce que vous produisez, c'est pas un produit français qui est pas consommé en France. J'ai dit, bah oui, enfin, donc, le producteur d'aluminium, lui, il peut pas récupérer sa TVA s'il vend sa production à l'étranger. Si, il peut, mais c'est pas normal. C'est ça que j'ai... Enfin bon, bref, je suis pas là pour critiquer la France, moi j'adore mon
pays. Est-ce qu'il y a une présomption de culpabilité?
Et nous, on reste en France quand même.
Est-ce qu'il y a une présomption de culpabilité quand on innove? C'est un peu ça...
Non, c'est bien pire que ça. Je pense que vraiment, nous, on est dans un écosystème européen qui est dirigé par les banques et que les banques européennes ont vachement peur de ce qui est en train de se passer. Et que, par exemple, la Chine, quand elle décide de faire un ban numérique et de bypasser les banques, c'est sa banque centrale. Donc, c'est sa banque centrale et son peuple. Ils vont travailler directement sans les banques. Nous, notre banque centrale, elle est tenue par les banquiers privés. Comment on fait? Comment on les décide de bypasser les banques, vu que ce sont eux-mêmes des banquiers? Parce que on croit que la BCE, c'est un truc autonome et indépendant. Oui, peut-être indépendant des États, mais pas indépendant des grandes banques. Il y a qu'à regarder qui est assis sur les sièges de la BCE. Donc, t'as des membres, des sièges, ouais, voilà, et donc les sièges sont tenus à 95% par des banques et des organismes financiers. Donc, comment tu veux décider la BCE de faire un euro numérique pour bypasser les banques dans ces conditions-là?
En fait, ce que tu nous dis, c'est qu'en Chine, le projet chinois, et là c'est aussi ce que je peux apporter, c'est qu'en gros, le système bancaire chinois est très protégé par l'État. Mais l'optique qui semble prendre, et je dis ça avec des pincettes, c'est que l'État chinois peut donner de la monnaie en direct aux Chinois, et lorsque les Chinois ont besoin de faire des prêts, à ce moment-là, ils vont voir leur banque. Donc, les prêts sont aux banques et la monnaie est à l'État. Ouais. Et comme ça, les vaches seront bien gardées. Et c'est pour ça que Ant Group, Jack Ma, qui voulait mélanger les styles en faisant du prêt privé, lui, voilà, il est allé ramasser des patates un peu dans la campagne. On lui a expliqué que ça allait pas le faire. Donc, il y a une logique là-dedans. Par contre, en Europe, ce que tu nous dis, c'est que les banques privées tiennent la BCE.
Bien sûr.
Et que du coup, pour préserver leur business, elles empêchent les nouveaux en disant non, ça c'est à moi, fais pas d'ombre.
C'est une idée. Michel Rocard disait qu'il valait toujours mieux voir la stupidité que le complot, c'était beaucoup plus facile. Donc longtemps, j'y ai pas trop cru à cette idée-là, mais ça commence à s'imposer à nous, quoi. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, il y a une boîte qui est à Caen. C'est un exchange local, comme la maison du Bitcoin à Paris. Ils ont créé cette boîte-là il y a déjà au moins 4 ans. Hein. C'est une boîte sérieuse, ils avaient des clients, et là, ils ont demandé leur statut PSAN à l'AMF, ils l'ont obtenu. C'est quand même incroyable, c'est un vrai boulot pour obtenir ce statut. C'est génial, ça leur donne beaucoup de crédibilité. Au bout d'une semaine qu'ils avaient leur statut, ils ont vu leur volume augmenter, parce que ça leur a donné une crédibilité, ils ont eu plein de nouveaux clients. Qu'est-ce qu'a fait leur banque? Ils leur ont fermé les comptes. Le CIC. Hein. Donc, je commence, moi, à me demander si, oui, il n'y a pas une véritable volonté bancaire. Puis quand tu vois la réaction de la FBF, c'est surtout ça, hein, c'est que la Fédération bancaire française est vraiment vent debout contre le Bitcoin, a toujours été comme ça, et on ne peut pas discuter avec eux. Ils nous détestent. On les a rencontrés, on les a croisés justement en 2010.
Alors pourquoi ils disent qu'ils détestent?
Ça se voit, tu vois, ils n'ont pas besoin de le dire. Ça se voit, ils ont une appréhension, voilà, ils ont l'impression de croiser des voyous, des bandits de grand chemin, je ne sais pas. T'entendais la FBS s'exprimer, tu sais, il y a les réunions de l'économie dans le sud tous les ans, là, je sais plus dans quelle ville, les journées de l'économie de je sais plus quelle ville, Fréjus ou un truc comme ça, tu vois pas, hein? Ouais. Enfin bref, la FBF était invitée il y a 3 ans et donc ils ont parlé du Bitcoin et en gros ils ont dit aux gens surtout n'y touchez pas, quoi, comme d'habitude. Voilà, la Banque de France a fait la même chose en 2017, la Banque de France a carrément sorti une vidéo où il y avait Madame Assouan qui disait aux Français, Bitcoin, n'y touchez pas, textuellement. Ces gens-là ont fait rater aux Français le meilleur actif de la décennie. C'est juste scandaleux, quoi. Et en plus, avec des arguments faux. Parce qu'ils ont comparé ça à l'époque à la tulipe, ils ont sorti un graphique totalement faux pour expliquer que le Bitcoin, c'est une tulipe. Ça fait poiler, quoi, le nombre de crises de la tulipe qu'il y a eu depuis 10 ans sur le Bitcoin. C'est juste hallucinant.
Le fameux donc, point tulipe chez les Bitcoins.
Donc, est-ce que la Banque de France, là, a fait preuve d'une incompétence crasse? Ou est-ce qu'ils sont guidés par des intérêts qui leur semblent totalement contraires à l'arrivée et à la promotion du Bitcoin? Voilà la question qu'au bout d'un moment, ça se pose. On veut bien être... a priori, c'est juste de la méconnaissance et de la bêtise. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce que c'est pas totalement organisé, quoi? Quand tu vois que toute la presse mondiale tape sur Bitcoin au niveau de l'écologie, et que cette presse-là appartient, pour l'essentiel, c'est pas que en France, hein, à des grands groupes de milliardaires, et, tiens, c'est bizarre qu'ils aient tous le même discours anti-Bitcoin.
Parce que oui, alors que ce que tu nous expliques, c'est que le côté écologique du Bitcoin, il est plutôt favorable.
Toute chose égale par ailleurs, pour l'instant, il est peut-être pas encore, mais c'est un système en devenir, c'est tout. Donc oui, bien sûr, le bénéfice du Bitcoin sur la gestion de l'énergie mondiale est très supérieur à son risque, bien sûr. Pour moi, c'est une évidence, c'est une évidence. Mais tant que t'auras des gens qui sont hyper malveillants, qui font des études pour dire que Bitcoin c'est dégueulasse, comment veux-tu que Cambridge ait une crédibilité dès lors que dans leur index, ils comparent Bitcoin à la consommation d'un pays? Ça n'a aucun sens. Pourquoi c'est spécifiquement cette industrie-là qui a le droit à cette comparaison-là? Pourquoi? Parce que le premier dingue là qui a commencé à critiquer Bitcoin et pour sa consommation énergétique, c'est De Vries, c'est 10 économistes. Et donc, il a comparé ça à un pays à l'époque. Et puis, Cambridge a repris cette histoire-là, mais ça a pas de sens. Donc, bon, bref, t'as pas d'études vraiment correctes et sans parti pris. D'un autre côté, t'as CoinShares, donc une boîte qui est spécialisée dans les crypto-monnaies, qui sort une étude qui, elle aussi, a des biais. Mais t'as pas une étude sérieuse. Aujourd'hui, Cambridge ne peut pas être une étude sérieuse tant qu'elle partira du principe qu'il faut comparer ça à la consommation d'un pays. Ça n'a pas de sens.
Bah, disons que pour être honnête, il faudrait aussi comparer le service que Bitcoin pourrait remplacer, la consommation de service que Bitcoin pourrait remplacer. Par exemple, si on dit à terme, Bitcoin, ça pourrait remplacer, je dis n'importe quoi, 60% de l'activité bancaire,
oui.
Eh ben, il faudrait dire, aujourd'hui, l'activité bancaire s'étend, donc 60%, ça fait ça. Et le jour où Bitcoin fait ça, eh ben, et là, on peut comparer des choses comparables. Parce que
la consommation
de l'Irlande, j'en sais rien. Moi, je sais même pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup.
Non, l'Irlande, c'est 25 TWh, c'est très peu.
Et en France?
J'ai même pas idée de la France, ça doit être aux alentours de 300 TWh, quelque chose.
Voilà, pour donner. Donc,
La Suède, c'est 127 TWh. Donc, c'est à ça qu'on nous compare aujourd'hui, ce qui est totalement faux. Hein. Moi, j'estime que le hash rate représente moins de 100 TWh aujourd'hui. Mais ça, c'est les chiffres que nous donne Cambridge.
Et le système bancaire, alors, qui est potentiellement remplaçable par Bitcoin, il fait combien?
Le système bancaire, on estime qu'aujourd'hui, c'est plutôt dans les 1300 TWh, et c'est une estimation qui est très, très, très en dessous de la réalité, parce qu'il y a plein de critères dont on ne tient pas compte, notamment toute cette population bancaire qui va en banque, et qui se déplace, qui utilise du gasoil pour y aller, et tout ça. Donc, on est très, très loin du compte en termes d'impact total de la finance. Ouais. Sans compter que les banques financent les groupes pétroliers, tout ça, on le sait, quoi. Donc, c'est très critiquable la manière dont travaille le système financier actuel. Et donc, aller critiquer la consommation de Bitcoin, c'est ridicule déjà parce que ça consomme beaucoup moins que le système qu'il est appelé à remplacer. Et puis surtout parce que sa consommation d'énergie est spécialisée et appelée à n'utiliser que des surplus et à être un régulateur de l'électricité mondiale, ce qui n'est pas du tout le cas des systèmes bancaires. Quand t'as du trading, par exemple, les robots traders, eux, il faut qu'ils soient le plus près possible des centres de décision pour que leurs ordres arrivent avant les autres. Donc, ils sont obligés d'aller dans les villes. Ils vont pas aller se mettre sur une unité de production. Donc, ils vont consommer comme la population en fonction du mix énergétique de la ville où ils sont. Et c'est pas le cas du Bitcoin. Le Bitcoin, on peut choisir d'aller se mettre là où on a une énergie propre.
Au fin fond de la... Ouais.
Et au fin fond. Si demain, le charbon augmente considérablement, comme je pense que le pétrole va augmenter, donc le kilowatt carboné va beaucoup augmenter. Donc, ça va tuer le mining sur le charbon. Ça va pas du tout tuer l'activité bancaire sur le charbon. Les banques qui sont à Varsovie, elles ont autour d'elles des centrales au charbon, elles vont continuer à travailler au charbon, même si le charbon augmente beaucoup, même si leur kilowatt augmente énormément. Donc, s'il y a cette augmentation-là, on sera la première industrie à être 100% verte, alors que les autres industries ne pourront pas. Elles seront obligées de payer leur électricité plus cher, parce qu'elles ont besoin d'être là où sont leurs clients, ou là où sont les centres de décision, ou là où sont les ports, ou là où sont les grandes routes aériennes. Nous, pas du tout, on peut aller se mettre n'importe où.
Et du coup, donc juste pour finir sur les ordres de grandeur, donc tu disais Bitcoin, c'est moins de 100 TWh, le système bancaire, c'est au moins 1300, et Bitcoin finalisé, on va dire, une fois mature, ce serait combien? T'as déjà essayé de voir un peu?
Ça peut rester pareil qu'aujourd'hui, ça dépend de l'amélioration énergétique des machines, mais je pense pas, parce que je pense que le prix du Bitcoin est encore appelé à beaucoup évoluer et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de surplus. Je te dis, je pense qu'on consomme même pas 2% des surplus de la planète aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a une capacité de consommer 50, 60 fois plus. 50 fois plus, ouais.
D'accord.
Donc, du moment que c'est des surplus, ça pose aucun problème. Au contraire, ça va devenir une aide pour de nouvelles créations de sources d'énergie durable. Il y a besoin de ça. Parce que nous, on a des œillères d'occidentaux où tout va bien, on a une carte électrique qui est vachement bien gérée. Mais il y a des continents entiers où c'est pas le cas, notamment en Afrique, où on sait très bien que si on veut amener l'électricité aux populations, on va pas le faire dans le cadre du réseau central. Il va falloir décentraliser, faire des petites centrales, et ces petites centrales n'obtiennent des financements publics que si c'est des centrales propres. Donc, propres. Parfois, on peut penser que le solaire ou l'éolien a un impact écologique de dingue à la fabrication. Peu importe, ça c'est subventionné. Moi, je suis pas là pour juger de la manière dont est faite l'énergie, mais en tout cas, ces centrales-là sont appelées à se développer, c'est obligatoire, sinon les gens n'auront jamais l'électricité, et ça se fera donc sur ces sources durables, Et les sources durables, comme je l'ai expliqué au début, tu peux pas créer une source durable en fonction de la demande du moment. T'es obligé de la prévoir plus grosse, quoi. Et donc là, il y a des surplus. Donc là, il y a du mining. Ça va devenir évident pour tous les gouvernements. Là, depuis que je suis dans le mining, moi, ça fait à peu près 6 ans, j'ai vu des pays entiers s'y mettre. Donc, notamment l'Iran, le Venezuela, la Biélorussie qui mine sur une centrale nucléaire, l'Ukraine qui mine sur une centrale nucléaire. C'est les États qui minent, là. Donc, si tu veux, c'est pas anecdotique. C'est quand même des gros pays. Le Québec. Hydro-Québec, c'est de notoriété publique que le mining de Bitcoin a sorti Hydro-Québec du rouge. Donc c'est une industrie qui est très importante pour le Québec aujourd'hui.
Puis ce qui est marrant, j'y pense aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui veulent des taxes sur les microtransactions, mais en réalité pour diffuser justement une part de l'économie de la finance dans alors ils pensent aux impôts, mais en gros dans l'économie réelle, quoi, parce que les impôts c'est bien pour y donner à quelqu'un d'autre après. Mais en réalité avec Bitcoin, est-ce qu'on peut dire que la taxe, bah, c'est le coût de minage, parce que sur chaque transaction qu'on fait en Bitcoin, il y a une taxe, enfin c'est pas une taxe, ça correspond à un service, mais le service, il y a bien 10 € par transaction de prélevé, on va dire ça, et ces 10 €, ils vont dans ta poche, mais ils vont aussi dans la poche du parc naturel du Congo, ils vont en Sibérie, ils vont
du producteur.
Donc en fait, ça diffuse, cet argent est diffusé dans
cet argent va en grande partie chez les producteurs d'électricité, et donc en grande partie chez les producteurs d'électricité verte, et qui ont besoin de fonds. Parce qu'aujourd'hui, tous les producteurs d'électricité verte sont subventionnés. On peut pas créer une centrale solaire en France si on n'a pas un engagement d'EDF de racheter ses mégawatts. Et c'est partout pareil. Quand il y a une centrale hydroélectrique qui se crée en Afrique aujourd'hui, même en Afrique du Sud, là, en ce moment, je suis en train de suivre un chantier, c'est financé par l'ONU. Donc nous, on dit, ok, les financements publics, c'est bien beau, mais est-ce que ça suffit? Et ça suffit pas. Il y a pas mal de ces exploitants qui sont en déficit total, malgré les subventions qu'ils ont eues au départ. Donc ils ont besoin d'une aide, ils ont besoin d'une béquille. Nous, c'est ce qu'on fait. Les gouvernements donnent de l'argent aux producteurs d'électricité durable, on fait la même chose. Et on nous dit, vous êtes des sauvages, des destructeurs de la planète. C'est juste hallucinant. C'est complètement illogique.
Donc en fait, Bitcoin déplace les frais du système bancaire au secteur de l'énergie.
Au secteur de l'énergie qui a besoin d'argent pour pouvoir développer le durable, bien sûr.
Donc c'est assez intéressant cette réflexion.
Bah c'est une évidence, mais ça on arrive à le voir quand on est sur le terrain, parce que moi je le vois, la concurrence elle est dingue. Quand j'arrive à identifier 10 mégawatts sur de l'hydroélectrique, on est 4 ou 5 à se battre dessus. Je te dis, j'ai des mégawatts à gaver qui m'attendent au Kazakhstan, on les prend pas et personne ne les prend, parce que c'est sur du charbon et c'est hyper placé en prix, mais on sait que ça sera pas durable.
Et toi alors, comment t'en es venu, où est-ce que t'as grandi, comment t'étais qui Tu es né où? Tu viens d'où, en fait? Pour comprendre comment on en arrive à...
Ça, je l'ai jamais dit, c'est pas du tout.
À faire du business avec les services secrets ukrainiens.
C'est très peu intéressant, hein. J'ai eu une vie, une enfance normale.
Ça veut dire quoi, normal?
Bah, j'ai grandi en province, mes parents sont du Périgord, je suis arrivé à Nantes, j'avais 3 ans avec eux et voilà, donc j'ai eu une scolarité à peu près normale jusqu'à la 4e. Là, j'ai découvert la vie. Hein.
École publique, école privée.
École publique.
Et tes parents, ils faisaient quoi?
Mon père était chef d'entreprise. Il a créé plusieurs business, donc il déménageait souvent. À ce niveau-là, on a pas mal voyagé en France quand j'étais petit. Et puis le dernier déménagement, enfin un des derniers déménagements, là, on était à la campagne, on est revenu vivre à Nantes, et là j'ai eu un changement d'environnement dingue. C'est-à-dire que j'étais vraiment le petit campagnard qui allait aux champignons, à la pêche, qui avait des copains agriculteurs, et je me suis retrouvé dans le centre-ville de Nantes où là ça chambrait, c'était pas du tout la même mentalité. Puis là j'ai décroché de l'école complètement.
À quel moment?
Ça, j'étais en 4e. C'est là que j'ai rencontré Jean-François JF, mon associé d'aujourd'hui, quoi.
Voilà. Et donc, en 4e?
Ouais. Et donc ouais, bah là c'était une autre vie. Donc là j'ai mis beaucoup de temps pour aller jusqu'au bac. À ce moment-là, j'avais plus beaucoup à l'école. Et puis mon bac en poche, j'ai commencé à bosser tout de suite comme commercial. Et puis de fil en aiguille, j'ai changé de boîte assez vite. Après j'ai dit à mon patron, tiens, il y a un business à monter à Lyon, donc je suis allé monter une agence pour je travaillais dans le matériel de nettoyage à sec chez un importateur et distributeur. Donc j'ai monté une agence pour lui à Lyon. 3 ans après, j'ai pris la direction de l'agence de Paris et de l'agence de Lyon. Donc, je suis resté 3 ans et demi ici à Paris, dans ce quartier-là. Et puis, après, l'entreprise que mon père avait montée quelques 10 ans plus tôt commençait à avoir des difficultés.
Il faisait quoi ?
De la chaudronnerie industrielle. Il a monté des machines pour vider et peser les big bags. Enfin bref, c'est un espèce de géotrouve-tout qui a de très bonnes idées, mais qui n'est pas forcément un bon gestionnaire. Et sa boîte battait de l'aile, donc j'ai démissionné, je suis venu l'aider à Nantes, je suis resté 1 an et demi à essayer de sauver la boîte, ce que j'ai pas réussi à faire. Et après, j'étais au chômage.
À quel âge, là, du coup?
Là, j'avais 29 ans, quelque chose comme ça.
D'accord.
Là, je suis parti sac au dos aux États-Unis un petit moment, puis je suis rentré, j'ai ouvert une entreprise dans le matériel de nettoyage à sexe que je savais faire de mon métier d'avant. Et j'ai tenu ça, je sais pas, 4-5 ans. Et j'aurais pas dû créer cette entreprise parce que j'étais sur un marché qui était en train de disparaître totalement. Il y a beaucoup moins de nettoyage à sec aujourd'hui.
Le pressing, quoi.
Ouais, le pressing, ouais. Enfin, ici, en région parisienne, ça va au-delà du pressing, du nettoyage à sec, parce que t'as de très grosses usines. À Euro Disney, par exemple, faut nettoyer les costumes de Mickey. Donc là, j'avais vendu des machines. C'était plus grand que toute la pièce, là. C'était énorme. Et il y avait plusieurs entreprises comme ça. T'avais des entreprises à Roissy, à Orly, qui nettoient les couvertures d'avions, par exemple. Donc t'avais un marché qui était dynamique et industriel. Bon, bref, j'ai monté ma boîte là-dedans. Ça a vivoté 4-5 ans. Puis j'ai fait autre chose. Je suis rentré dans l'immobilier de placement. Dans une boîte qui s'appelait France Épargne. Donc là, c'était pas un promoteur, mais un distributeur d'immobilier transformé en LMP. Un produit de placement. Donc là, j'ai vu ce que c'était que le milieu de l'investissement. C'était une boîte qui était extrêmement dynamique en termes de vente. Donc j'ai appris des trucs. Je n'aimais pas ce métier, mais j'ai appris des choses. Et puis après, je suis rentré donc chez Asia Plantation Capital en tant que responsable Europe pour leur créer un réseau de distribution en Europe. Donc Asia Plantation Capital, c'est les plantations durables. Une boîte avec laquelle j'ai travaillé longtemps et je continue de leur donner des petits services parce qu'ils voudraient tokeniser leur forêt là, pour vendre les arbres un par un plutôt que de les vendre par lot. On est en train de travailler sur ce sujet-là depuis un petit moment. Voilà comment j'en suis arrivé au Bitcoin. Bah, en parallèle, Jean-François donc me parlait du Bitcoin depuis 2010-2011. Et donc ça a fait son chemin dans ma tête. J'ai étudié ça pendant longtemps. Et puis j'ai eu l'opportunité de visiter une ferme à Bitcoin à Taïwan en 2015. Et ça a été la révélation.
C'est-à-dire?
Bah, j'ai trouvé ça dingue, cette industrie énorme. J'ai visité des bâtiments, mais vraiment énormes. Je crois qu'ils avaient 10 000 bécanes ou quelque chose comme ça. C'était hyper impressionnant, la taille du truc, quoi. La taille des transformateurs, la taille de l'installation électrique, le bruit là-dedans, pour quelque chose qui était totalement inconnu chez nous, en France, quoi. Donc, j'ai dit, faut qu'on fasse ça, j'ai eu envie de faire ça. Et là, c'était irrépressible. Ouais. Je savais que je ferais ça. Donc, c'est là que je suis rentré en France et que j'ai présenté ça à mes copains agriculteurs. Et ils m'ont dit « Ok, banco, en France ».
Et c'était quoi tes références quand t'étais jeune, les personnalités qui t'ont marqué, les modèles, les gens qui t'inspiraient?
Je m'en souviens plus. Ils ont pas dû m'inspirer suffisamment, tu vois, pour que j'en ai gardé. Tu parles dans le business, dans l'économie?
Non, toi, personnellement.
Bah, mon père a été très inspirant pour moi. Mon premier patron, Gérard Nourry, m'a appris plein de trucs sur le commerce. Mes premières années, j'étais assez focalisé sur le commerce, sur la manière... de mieux vendre les choses possibles. Et de fil en aiguille, à force de voyager beaucoup, je me suis intéressé à l'économie mondiale. Et surtout, j'ai repris mes études quand j'étais à Lyon. J'ai oublié de te dire, mon bac en poche, je suis allé au CNAM, j'ai tapé la porte, et donc ils avaient une école supérieure de commerce qui s'appelle l'ICSV, et qui te donne une maîtrise de marketing. Donc j'ai appris le marketing là, pendant 2 ans en cours du soir. Et donc ça m'a énormément plu, et le marketing pas trop, mais il y avait des cours d'économie, et là c'était une révélation.
Voilà. Ah oui, l'économie ça t'a...
Ah ben c'était une véritable révélation. Ouais. J'étais de très loin le meilleur élève de la promo, je discutais beaucoup avec le prof, et ça m'a vachement plu. Ouais.
Parce que t'as pas été quelqu'un de très scolaire visiblement, tu t'es arrêté au bac, c'est ça, et après ça t'a...
Exactement.
Le bac c'était parce que t'étais poli. Il y avait pas
parce vraiment... que ma mère m'avait dit, sans ton bac tu pourras rien faire, elle avait pas tort parce que j'ai pu intégrer cette école et arriver à avoir ma maîtrise, donc un bac plus 4, parce que j'avais mon bac.
Maîtrise en
marketing.
D'accord. Et comment t'es passé tu te voyais entrepreneur ou tu te voyais perdu ou comment t'es arrivé à passer du coq à l'âne?
En fait, moi, ayant vu mon père entreprendre beaucoup et se planter pas mal, j'avais plutôt envie d'être salarié dans un gros groupe et tu vois, c'était plutôt ça mon idée. Et puis en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça. Que j'aimais bien travailler dans des petites structures et puis que si je pouvais travailler pour moi, ça serait mieux que d'avoir quelqu'un qui me dise.
Quand est-ce que t'as fait la bascule là-dessus?
Bah, je l'ai fait plusieurs fois parce que j'ai été plusieurs fois entrepreneur et je suis revenu donc j'avais créé mon entreprise dans le matériel de pressing et puis après je suis allé bosser dans l'immobilier. Donc là j'avais un patron. Et puis c'était très dynamique comme encadrement.
Ça a pas été trop dur de passer de patron à salarié, de revenir?
Bah non, j'étais hyper content parce que quand je te le dis, l'activité dans laquelle j'étais était vraiment en train de péricliter. Pas ma boîte, toute l'activité au global. Il y avait 9000 pressings quand j'ai commencé. Quand j'ai arrêté, il en restait 2000, quoi. Tu vois, donc c'était vraiment pas le moment de se lancer dans ce métier-là. C'était une erreur. Et donc j'ai trouvé un job où très vite j'ai pris de grosses responsabilités. Donc j'étais content. Ouais. Je suis rentré commercial, hein, développeur région. 3 mois après, j'étais directeur des ventes. 9 mois après, j'étais directeur commercial de la boîte. Donc, j'étais ravi. Hein. Et c'est des métiers qui payent bien.
Et oui, t'as progressé parce que t'avais des bons résultats, quoi. C'est-à-dire que c'est...
Oui. Bah ouais, bah, c'était une boîte où il fallait travailler dur, donc j'ai travaillé dur, quoi. Et puis j'avais une bonne proximité avec le patron, donc bah, il m'a identifié peut-être plus vite qu'un autre qui n'avait pas la même proximité.
Comment tu vis l'échec quand tu montes une boîte comme ça, tu y crois, tu mets tes triples, et puis t'as beau pédaler, ça passe pas.
Très bien, ça m'a jamais trop... Du moment que tu laisses pas de plume et que tu laisses pas de dette à qui que ce soit, c'est pas grave. C'est pas grave, tu redémarres.
Émotionnellement parlant, c'est pas...
Non, c'est pas extrêmement traumatisant. En France, on a tendance à en faire un drame. Aux États-Unis ou en Argentine, par exemple, tu te casses ta gueule avec une boîte, en démarres une autre, c'est tout à fait naturel. Donc, moi, je le ressens comme ça. Pour moi, ça n'a pas été traumatisant, ni je l'ai pas considéré comme un échec. Au contraire, j'ai appris plein de trucs en gérant des boîtes. Je savais ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais pas envie de faire, ce dans quoi j'étais bon et ce dans quoi j'étais nul. Tu vois, au début, quand tu montes ta boîte, tu veux tout faire. Tu veux dire, tiens, je vais gérer la compta, je vais gérer ci. Puis en fait, il y a des compétences que j'ai pas. Donc maintenant, je sais que si je veux créer une entreprise, il faut que je m'entoure et il faut très vite que l'entreprise ait les moyens de payer les avocats, les comptables, qui vont faire tout le job que je veux pas faire.
Et quand tu montes des boîtes, c'est plutôt du style à t'associer avec des gens et à oui. faire ensemble ou tout seul
en... Non, moi j'aime bien m'associer. Et d'ailleurs, je me suis toujours très bien entendu avec mes associés, même après coup. L'entreprise que j'ai montée là, dans le pressing, ça s'appelait Ornette et j'avais un associé, Nicolas Berluto, qui est un de mes très bons amis, qui est resté un excellent ami. On s'est séparés sans aucun problème.
Et c'est quoi les influences? Les gens t'ont beaucoup influencé ou t'as mené ta barque en disant je vais là?
Non, vraiment, j'ai pas le sentiment d'avoir été très influencé ou d'avoir eu un mentor. Non, j'ai pas ça.
Sur le Bitcoin, t'y es pas venu toute seule?
Si, bah JF, je te dis, m'a mis le pied à l'étrier très vite, mais je l'ai pas écouté. Mais tu sais, Bitcoin, c'est comme ça rentre dans ton cerveau et puis ça finit par maturer là-dedans. Donc oui, c'est JF y est pour beaucoup. Puis après, j'ai rencontré un Américain à Bangkok qui avec qui on a beaucoup discuté de ça aussi. Donc c'est vrai que souvent il te faut quelqu'un qui te déverrouille quelques serrures. Ouais. Donc lui et Robert m'avaient aidé à ça. Ouais.
Vous êtes combien d'associés chez
Bitblock ? On est 4 associés.
4 associés ?
Ouais.
Et vous êtes trouvé comment ? Parce que s'associer, c'est quand même compliqué.
Eh ben, JF, je te dis, je l'ai trouvé en 4e au collège. Donc. Et les deux autres, en fait, Adrien et Thomas, c'est les patrons de Gwensas, qui est une boîte de mining qui est à Bordeaux. Et donc, avaient créé leur boîte en même temps qu'on a créé Bitblock. Sauf qu'eux, ils l'ont fait discrètement. Nous, on a fait du bruit. On voulait promouvoir le Bitcoin et le mining en France et tout ça. Eux ont fait leur truc discrètement, mais en fait, ils étaient plus gros que nous. Et donc partout dans la presse, tu disais qu'on avait la plus grosse ferme de France et on croyait que c'était le cas. Et lui rigolait bien, Adrien, parce qu'il savait qu'il avait plus de machines que nous. Sauf qu'on s'est retrouvé dans la même situation en 2018 avec l'impossibilité de faire tourner les bécanes à moins de sortir de l'argent de notre poche pour payer l'électricité.
Parce que le prix du Bitcoin s'était effondré.
Le prix du Bitcoin s'était effondré, le hash rate avait explosé à la hausse. Donc il a fallu quitter la France. Et donc moi j'ai trouvé un plan en Sibérie. Bah ouais. mais avec, c'est marrant parce que c'est, j'ai fait ça avec un copain, Amir Nes, qui lui est israélien, donc c'est lui qui a la distribution de cette ferme sibérienne. Et donc j'ai dealé avec lui, et il nous a donné l'autorisation de mettre nos machines là-bas sans rien payer. Si tu veux, c'est compliqué parce que quand tu crées une ferme, tu payes les transformateurs, les câbles électriques, les emplacements, les étagères. Donc pour mettre une machine, ça coûte de l'argent. Et donc souvent, quand tu arrives avec tes 1000 bécanes, le gars il te dit OK, ben je prends $50 par machine. Ouais, à l'époque, on était pendus. On avait juste de quoi payer le transport pour expédier les bécanes. Et on n'allait pas redemander aux propriétaires des machines, qui étaient de nos clients, de remettre au pot. On n'a jamais voulu leur faire ça, quoi. Mmh. Et donc, on a tout payé de notre poche. Et donc, j'ai trouvé ce plan en Sibérie et j'ai fait paraître un petit article dans bitcoin.fr pour dire que s'il y avait des gens qui avaient des machines en France, ils avaient qu'à profiter du voyage et les mettre sur nos palettes. Et donc, Adrien m'a contacté. Il m'a dit, j'ai plus combien de machines, mais un truc comme 900 bécanes. Bah, c'était énorme. C'était plus que nous et donc j'ai dit banco, donc on a envoyé ces machines avec les nôtres. Du coup derrière nous on a beaucoup prospecté dans le monde entier. C'est là qu'on a décidé de s'installer au Kazakhstan et notre première implantation au Kazakhstan a été un échec patent. Et ils nous avaient suivis ces deux gars-là dans notre création au Kazakhstan. Ils avaient mis des billes pas mal. Donc comme on n'arrivait pas à sortir, on est toujours dessus, hein, c'est pas fini, mais on a eu une grosse problématique de construction du bâtiment dans lequel on avait investi pas mal. Donc vu qu'ils m'avaient suivi en me faisant confiance sur ce business-là et puis que ce business-là, j'arrivais pas à le faire sortir. Quand on a eu des opportunités sur d'autres sujets, je leur ai proposé de s'associer avec nous. Voilà, juste parce que d'abord on avait besoin d'eux, ils ont beaucoup de compétences et puis c'était une manière élégante de leur envoyer l'ascenseur.
Parce que du coup, quand tu t'associes, comment ça se passe pour aller proposer un mariage, un mariage d'affaires avec...
Bah là, je l'ai fait comme ça en disant qu'on a...
Si vous êtes concurrent, enfin...
Bah, on n'est plus du tout concurrent maintenant. En fait, si, on est concurrent parce qu'on a... les deux structures vendent les machines et on a créé une structure commune pour gérer les machines. Donc nous, on est tous les deux des vendeurs de matériel. Effectivement, sur là-dessus, on est en concurrence. Mais tout est ouvert. Quand un client contacte OneSA, je le sais. Quand un client contacte Big Block, ils le savent. Donc après, nous, on s'accorde. Et on n'est pas trop de nous tous pour faire le business. Non, on s'entend vraiment bien là-dessus. On a l'avantage d'être dans une période où on a beaucoup plus de demandes que ce qu'on peut donner aux clients. Donc si tu veux, on ne se tire pas à la bourre. C'est pas du tout l'esprit. On a des demandes de partout et on ne peut pas les satisfaire. Non.
Et dans les deux, dans vos deux cas, ça vous a pas choqué en fait de vous rapprocher pour vous associer?
Non,
le contact est bien passé, quoi.
Ouais, le contact est très bien passé. Bon, on se connaissait déjà pas mal parce qu'on avait déjà fait des voyages ensemble au Kazakhstan et tout ça. Donc le contact passait bien. C'est des gars qui sont très techniques et moi c'est ce qui me fait défaut. Moi je suis pas un technicien. Alors JF est un informaticien très pointu, mais à deux on peut pas tout faire. Donc le fait d'être à quatre avec trois gars qui ont vraiment des super compétences techniques, ça changeait tout. Et non, ça a été une très bonne association, très bénéfique pour tout le monde.
Est-ce que tu as un secret ou des repères pour repérer les gens de confiance avec qui s'associer ou avec qui travailler?
Ben,
comment tu repères
malheureusement non,
les gens creux, les gens pleins?
Malheureusement non, je le fais au feeling et pour l'instant je me suis pas trop planté quoi. Mais non, j'ai pas de technique. Moi je le sens bien, il y a des gens, je le sens que c'est des gens honnêtes avec qui ça a bien passé. Et puis il y a des gens tu le sens pas, voilà quoi.
Et t'as un management plutôt serré, proche des gens, à quelle heure t'arrives, ou alors c'est plutôt... Comment
moi,
ça se passe
Là, c'est des associés, hein, j'ai aucun management avec eux.
Est-ce que t'as des salariés?
Non, on a des salariés sur les sites uniquement. Donc là, sur les sites, oui, on a des horaires, voilà. Et bon, on voit très vite à quelle heure ils se connectent, à quelle heure ils arrêtent de bosser, on voit tout, hein, mais on n'est pas hyper chiant là-dessus, du moment que le boulot est fait. Non, je suis pas un garde-churme, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr.
C'est quoi la culture d'entreprise Big Block?
Mais tu vois, on n'est tellement pas dans ce schéma-là que je ne l'ai jamais identifié et je ne l'ai jamais formalisé, la culture d'entreprise Big Block. Je ne saurais pas te répondre, j'y ai pas réfléchi.
Parce que les gens dans les containers, c'est des salariés.
Oui.
Et il y en a combien?
Il y en a un petit paquet. Alors, ce n'est pas forcément des salariés en direct. Là, en Afrique, par exemple, on n'a pas voulu créer une entreprise dans le pays. Et donc, on n'a pas voulu salarier les gens nous-mêmes. On a demandé à la compagnie d'électricité de les salarier pour nous, de les payer et donc de nous retenir leur salaire sur des fils qu'on leur paye tous les mois. Quoi. C'est plus simple. T'évites le côté néocolonial du blanc qui commande et tout ça. On voulait pas se lancer dans ce truc-là. Quoi. Et puis, c'est des ressources humaines. C'est plein de choses qu'on leur délègue avec plaisir. Ouais.
C'est combien de personnes dans les...
Actuellement, on a 4 personnes qui gèrent le SAV sur la mine, là, en RDC.
Et en tout?
On doit avoir une dizaine de techniciens en tout, entre le Kazakhstan et l'Afrique. Et puis surtout, on a des développeurs, donc des agents, quoi. Des gens qui représentent Big Block. On en a 3 au Kazakhstan, 1 au Tadjikistan, 1 en Afrique. Et donc, ces gens-là travaillent pour nous, démarchent les compagnies électriques, identifient les mégawatts perdus et nous reportent ça.
Développeurs commerciaux, quoi.
Développeurs commerciaux, mais c'est un commerce très particulier.
Faut du réseau,
faut de l'entre-gens, faut avoir des idées, parce que tu vas pas toujours trouver les débouchés là où tu les attends. Hein, nous, on a le gars qui développe l'Afrique actuellement... Lui connaît plein de gens, il a trouvé des manières d'approcher les compagnies pétrolières, par exemple, d'une manière que je n'avais pas trouvée, moi. Donc là, sur les compagnies pétrolières, on est en train de travailler sur un chantier qui est juste dingue. Hein. C'est-à-dire que tu as énormément de pollution qui est due à l'extraction du pétrole, pas par le pétrole, à cause du gaz qui sort en même temps que le pétrole et donc qui est brûlé dans des torchères. C'est du gaz à base de méthane, beaucoup, et c'est extrêmement polluant, et en plus c'est très mal brûlé dans les torchères. Si tu as du vent, tu brûles que 50% du gaz. Donc, il y a une manière de dépolluer ça, c'est de le transformer dans des grosses génératrices en électricité, et de réinjecter l'électricité sur le réseau. Comme d'habitude, il faut qu'il y ait un réseau.
Et pourquoi le méthane, il est pas capté plutôt?
Parce qu'il est pas pur du tout, donc ça vaut pas le coup si tu veux de le mettre en bouteille.
Pour le pétrolier, c'est un déchet, quoi.
Pour le pétrolier, c'est un déchet, mais c'est un déchet qui leur coûte énormément de taxes, parce que c'est leur pollution. La pollution du pétrolier, c'est pas le pétrole, ça c'est les consommateurs qui payent les taxes de pollution du pétrole, pas l'extracteur, pas le producteur. Mais en revanche, le gaz de torchère, oui, ça leur coûte un bras en amende, en taxes CO2, et c'est normal. Donc il faut absolument réduire ça. C'est juste dingue, hein, comme pollution. C'est une pollution vraiment très impressionnante. Et il y a 20% des sites où tu peux réinjecter l'électricité sur un réseau existant. Tu as 80% des sites où il n'y a pas de réseau parce que ça se retrouve en plein désert du Sahara, en Libye, enfin dans des endroits sur des plateformes pétrolières dans l'océan, n'importe quoi. Donc là, il n'y a que le mining qui peut venir consommer l'électricité qui est transformée à partir du gaz polluant. Et ça, c'est un chantier assez nouveau. Il y a une boîte américaine, une boîte canadienne qui bossent là-dessus depuis deux ans et demi. Ils ont déjà beaucoup de succès dans leur, sur leur continent, là, au Canada, aux États-Unis. Et nous, on est en train de faire ça en Afrique et en Europe. Ouais. Et on pense que d'ici entre 3 et 5 ans, il y aura plus une seule torchère qui brûlera comme ça. Et ça, avant le mining, c'était pas possible d'envisager que d'ici 3 ans, tu puisses éteindre toutes les torchères.
Et du coup, c'est quoi les projets pour l'avenir? Avec ben, Big Block.
C'est ça, c'est déjà de travailler, d'éteindre toutes les torchères du monde. Ça, déjà, si on a 20 ou 30% de ce marché-là, qu'on se partage avec nos collègues américains et canadiens, on sera enchantés, on a de quoi s'occuper, je te dis, pour les 5 prochaines années. Et puis, on a beaucoup de développement en Afrique, mais énormément. On est sur 12, 13 dossiers actuellement en Afrique. Donc, sur 5 pays différents. On a toujours ce projet Tadjik. Donc, non, les projets, c'est pas ce qui manque. Hein. Je sais pas si on arrivera à tout faire. Mais les demandes et les projets, on en a de partout en ce moment. Hein.
Oui, parce que pour préciser sur les torchères, la pollution, en fait, quand on envoie du méthane dans l'air, donc si tu dis qu'il y a 50% du méthane non brûlé...
Ça arrive quand, s'il y a du vent, hein, c'est pas toujours le cas, mais en cas de grand vent, et c'est souvent le cas sur les exploitations pétrolières, tu peux avoir jusqu'à 50% du gaz qui est pas brûlé. Ouais.
Et le méthane, est en termes de réchauffement climatique, le méthane est 20 fois plus impactant que le CO2. Donc du coup, quand toi, tu brûles le méthane pour le faire passer dans un ordinateur... Il faut que la combustion soit bonne et parfaite, quoi. Et du coup, t'es 20 fois moins polluant que du méthane qui est relâché dans l'air.
Alors, pas tout à fait, parce que tu arrives à retraiter, quand tu le transformes en électricité, t'arrives à retraiter à peu près 99% de la pollution.
T'en ai fait cadeau.
Il t'en reste un petit bout.
Ouais, voilà.
Mais sinon, c'est ça l'idée.
Mais en gros, tu diminues d'un facteur 15, quoi.
Oui.
Enfin, c'est, ça fait une grosse contraction.
Même plutôt 19,
ouais.
Enfin,
ouais, c'est énorme.
C'est énorme, bien sûr. Ça sera vraiment un pas énorme pour l'humanité d'enlever les torchères. Ouais. Ça sera déjà quelque chose d'hyper important. Ouais.
Et un jeune qui veut se lancer dans le Bitcoin aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse du mining? Il faut qu'il devienne trader pour spéculer comme un cochon? Faut que, un jeune qui est attiré, qui a les yeux qui brillent parce qu'il comprend que, il comprend les potentiels, qu'est-ce qu'il peut faire?
Ah, tout dépend s'il veut en faire son job ou s'il veut gagner de l'argent. S'il veut en faire son job, faut qu'il apprenne à programmer, hein. Je pense que c'est vraiment le nœud du sujet.
Programmer quoi?
Faire du développement, quoi. Bah, être capable de bosser pour Bitcoin Core, d'apporter des suggestions à l'amélioration du protocole Bitcoin. Une fois que t'as ça comme, imagine que une de tes idées, une de tes transformations du protocole, parce que le protocole Bitcoin, il y a plus une ligne qui est d'origine, hein. Ça évolue énormément tous les ans, contrairement à ce que les gens pensent. Il y a énormément de développeurs qui travaillent dessus. Ils travaillent dessus de manière gratuite. C'est juste dingue, hein, d'avoir des milliers de gens comme ça qui travaillent sur un protocole et qui sont payés par personne. Pour avoir à peu près la même force de développement, Ethereum est obligé de payer des dizaines des centaines d'informaticiens, quoi. Là, sur Bitcoin, c'est gratuit, mais ça te donne un CV de dingue. Si tu arrives à faire voter une transformation du protocole qui est reconnue par la communauté, tu gardes sur ton CV, c'est mieux qu'un bac plus 12 en informatique, si tu veux.
Alors, explique justement ce système de vote Bitcoin, parce que c'est un système, c'est de la démocratie directe, en fait. Mmh. Alors, explique comment ça marche.
Ouais, moi, je suis pas développeur. Hein.
Non, donc,
j'ai jamais proposé une idée. Apparemment, tu proposes une idée. Si elle est cohérente, la communauté des développeurs valide ton idée. Voilà, c'est juste ça. Je sais pas exactement par quel procédé. Parce que là, faudrait que t'invites Julien Guiton pour t'expliquer ça, parce que lui a été un des, je crois, le premier dev français à s'intéresser à Bitcoin en 2011, quelque chose comme ça. Donc lui, il a amené des transformations au protocole Bitcoin. Donc il t'aura expliqué comment on travaille le vote et tout ça. Moi, je l'ai pas vécu de l'intérieur. Moi, je suis très expérience. Et après, je peux parler de ce que je connais. Tu vois, si tout le monde se tenait à ça, il y aurait beaucoup moins de conneries à raconter sur Bitcoin à longueur de temps à la télévision.
Mais on n'est pas à la télé, ça.
Non, mais...
Mais ça ne nous empêche
pas. Particulièrement à la télé, mais... Chez toi aussi, il y a des gens qui ont raconté plein de bêtises sur Bitcoin, et c'est normal, parce qu'il faut pas y réfléchir à haute voix, il faut y réfléchir longtemps dans son coin. Je te dis, moi, j'ai bossé 3 ans le sujet, j'ai lu tous les livres qui avaient été écrits à l'époque, et une fois que j'ai eu bien compris, je me suis permis de m'exprimer sur le sujet. Mais si on m'avait interviewé en 2013 sur le Bitcoin, j'aurais dit, ah, saloperie, ça consomme trop d'électricité, ça va devenir une catastrophe écologique, j'y comprends rien, c'est une monnaie de geek, Voilà, c'est, j'avais les mêmes a priori que tout le monde. C'est normal d'avoir des a priori quand on découvre Bitcoin, parce que ça disrupte complètement toutes nos certitudes. Une espèce de collectivité qui devrait être toute prisonnière d'un système bancaire, c'est une solidarité, en fait. Et tu te dis, si je sors de ça, je sors de la solidarité. Il y a ça aussi comme idée souvent des gens. Il y a, putain, c'est des francs-tireurs, les mecs. Ils veulent nous laisser dans la merde de notre système financier qui est en train de s'écrouler. Ouais, aujourd'hui, il faut vite se sauver et avoir un peu de Bitcoin. Mais ça, c'est mon idée. En tout cas, voilà, si je m'étais contenté de communiquer, si j'avais eu une parole audible, parce que moi c'était pas le cas, hein, j'avais pas d'auditoire, donc je pouvais bien dire, ah, saloperie de Bitcoin, personne ne m'écoutait. Mais quand Charles s'exprime devant toi et dit des trucs faux sur Bitcoin, c'est dommage qu'il s'exprime avant d'avoir fait le tour des choses, quoi. Et c'est long, c'est un gros travail. Tu me l'as dit toi-même que t'avais passé beaucoup de temps et je sais que tu travailles vite, t'as vu, il faut du temps pour faire le tour du sujet, pour commencer à vaguement comprendre comment ça fonctionne et quels avantages on pourrait en attendre. C'est long. Bah en fait, moi, il m'a fallu 3 ans et dans chaque voyage, je lisais sur Bitcoin, chaque voyage, chaque aéroport. J'allais très souvent en Malaisie ou en Thaïlande, c'est des voyages longs. J'ai bouffé les bouquins d'Antonopoulos, enfin tous ceux qui avaient écrit sur le sujet, et c'est hyper enrichissant. Quoi.
En fait, le coût mental est élevé.
Oui.
C'est-à-dire, j'ai souvent, si j'invente la chaise pliante, je viens de voir, je dis, ah, regarde ma chaise, ouais, c'est une chaise, bah là, j'ai mis 2 vérins, hop, elle est pliante, elle se range dans le placard. Je dis, ah, bah, tiens, c'est pas bête. Et puis, combien tu la vends? Et j'ai compris la chaise pliante, quoi. Voilà. Mais Bitcoin, il y a vraiment beaucoup, et on le voit quand on parle, à chaque fois que tu dis un mot, je te dis, explique.
Il y a des choses, je sais pas, hein.
C'est quoi alt, c'est quoi wallet, c'est quoi blockchain, c'est quoi machin?
Là, il y a un écosystème où il y a un vocabulaire, hein, mais.
Oui, mais même dans la derrière chaque mot, il y a des notions.
C'est vrai.
Il y a des notions différentes. Une blockchain, moi je dis c'est une chaîne de confiance, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent dans la ferme de mon voisin.
De toute façon, ça sert à rien d'essayer de définir la blockchain, hein. C'est quelque chose d'assez anecdotique dans le protocole Bitcoin. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on a retenu la blockchain et on dit, ah, la blockchain c'est génial. Il y a même des gens qui ont dit la blockchain c'est génial, mais sans les jetons c'est mieux. Ça, c'est Jean-Claude Trichet, le mec a rien compris. Tu peux pas faire une blockchain sans jetons. Enfin, tu peux, mais ça sert à rien. C'est une base de données distribuée, chère à mettre en service, contraignante, enfin aucun intérêt. Une blockchain sans jetons, ça n'a pas d'intérêt, on le dit depuis des années. Ça a participé du retard français qui a commencé à arriver en 2016-2017.
Mais si, on peut étiqueter des poulets avec ça.
Voilà. Et à l'Assemblée nationale, en 2017, dans mon discours, tu peux le retrouver, il est sur Internet, hein, j'explique que la blockchain n'a pas été conçue pour redater des poulets et des dindons. Et c'est un système monétaire, c'est une révolution monétaire. Et on était en train de passer à côté de ça, on est passé à côté de ça. Pourquoi? Parce que, justement, ces vendeurs de blockchain bullshit sont arrivés et ont monopolisé le débat.
Alors raconte-nous l'histoire des poulets et des dindons, parce qu'il y a des gens qui sont pas dans la blague. Il y a un argument qu'on entend souvent, c'est de dire la blockchain, ça sert pas qu'à faire de la monnaie, ça sert aussi à tracer.
Tout un tas de choses. Voilà. Donc Carrefour a adopté la blockchain pour la traçabilité de ses aliments. Donc ils ont commencé par le poulet, puis les tomates, puis n'importe quelle connerie. Donc t'as un QR code sur l'aliment et donc t'es censé scanner ton QR code et hop, c'est la blockchain. Donc ça te dit où le poulet a été élevé, comment il a été nourri, transporté et tout ça. Mais ça, tu peux le faire avec une base de données, t'as absolument pas besoin d'une blockchain. La première qualité d'une blockchain, on le dit toujours, c'est l'immuabilité des données. C'est-à-dire que s'il y a eu une magouille entre la production du poulet et l'arrivée dans les rayons Carrefour, on va pouvoir l'auditer et le consommateur va pouvoir le voir. C'est ça l'idée. Et surtout, cette donnée-là est immuable. Carrefour ne peut pas revenir et enlever cette donnée. Voilà. Genre, scandale de la viande de cheval, il y en a plein les lasagnes, Monsieur Carrefour s'en rend compte. Qu'est-ce qu'il dit au promoteur, au mec qui lui a monté sa blockchain privée et fermée? En l'occurrence, je pense que c'est Hyperledger, IBM. Il lui dit, oh là là, on vient de se rendre compte qu'il y avait un scandale de la viande de cheval. Là, ces cons-là, ils nous ont vendu de la viande de cheval en Pologne. Faut me virer cette information de la blockchain. Oui, monsieur Carrefour, on va le faire. Oui, l'immuabilité des données. Donc, tu perds complètement le seul avantage identifié, enfin, le plus gros avantage de l'immuabilité des données.
Une blockchain privée, c'est pas terrible, quoi.
Une blockchain privée, c'est une base de données beaucoup moins agile. C'est tout.
Et pourquoi, quand on enlève les jetons, ça sert à rien, alors?
Bah parce que c'est, encore une fois, c'est une base de données distribuée, ni plus ni moins. Ça n'a aucune valeur. C'est juste compliqué. Et ça permet juste de dire, regardez, monsieur Bruno Le Maire, on a fait une blockchain chez Carrefour. Waouh, c'est génial, non? Ah oui, on va vous aider, hein, ça c'est beau, hein, comme vous voulez. Bah, je voudrais de l'abattement d'impôts. C'est ce qu'on appelle le crédit impôt recherche. Dès que tu mets blockchain dans ton service informatique, t'as droit au crédit impôt recherche. C'est dingue. Moi, ça fait 3 ans que je les refuse. Je dis, le jour où le gouvernement d'après va se rendre compte qu'on a donné tout cet argent à des gens qui n'ont fait aucune recherche et qui vont demander le remboursement, les mecs qui te proposent ça, les consultants qui te proposent ça, ils disent, vous inquiétez pas, hein, on a un conseil juridique, des assurances, vous rembourserez jamais rien. Je dis, mais moi, j'en fais pas de recherche, je suis mineur. Qu'est-ce que... Ah ouais, mais vous y avez droit, vous y avez droit. Tous les ans, je suis démarché pour au moins 3-4 boîtes qui me disent, mais vous vous rendez pas compte de l'économie que vous allez faire. J'ai plusieurs collègues qui me disent, mais t'es con, pourquoi tu prends pas cet argent? Ben, je dis, parce que c'est pas honnête. C'est juste pas honnête. Pourquoi l'État, qui m'a permis de grandir, de m'éduquer, de me soigner, je lui piquerai de l'argent pour de la recherche et du développement que je ne fais pas? C'est très malhonnête. Ah oui, mais vous êtes dans la blockchain. Non, voilà, moi cet argent-là, je le prends pas. Mais je suis droit dans mes bottes.
Est-ce que les gens doivent acheter du Bitcoin?
Bah oui, bien sûr, toujours.
Et, ouais. Et pourquoi que faire? Bah, pour spéculer dessus parce que ça monte et quand ça monte faut en acheter, ou il y a un intérêt un peu plus pragmatique pour les gens, monsieur, madame Michu, quoi.
Le premier intérêt c'est ça, c'est pas une spéculation comme on peut l'attendre d'un trader, hein. Tout est spéculation, hein. Quand tu mets de l'argent sur ton livret A, c'est de la spéculation. C'est la même chose, sauf que là c'est une spéculation dont on est certain, que, enfin moi j'en suis certain, que ça va prendre beaucoup de valeur. Donc comment ne pas dire aux gens qui m'entourent, achetez du Bitcoin, et je le dis depuis que je l'ai découvert. Et je suis hyper content que certains m'aient suivi. La plupart m'aient suivi. Donc aujourd'hui, ils sont tous très contents. Alors, je te dis pas que le Bitcoin sera pas à 20 000 la semaine prochaine, alors que là, il est à 50 000. Mais on s'en fout, il faut le garder longtemps. Il faut le garder, moi j'ai toujours dit, gardez 5 ans, et dans 5 ans, vous rouvrez votre valette, vous regardez ce qu'il y a dessus, et vous verrez si ça vaut la peine ou pas. Donc il faut
donc
pas...
Donc c'est juste l'intérêt, il est juste spéculatif.
Non, ça c'est le premier, mais c'est vachement important. C'est vachement important de pouvoir se mettre un peu de trésorerie de côté, de pouvoir envisager son avenir, sa retraite et tout ça. Et aujourd'hui, t'as pas un produit traditionnel qui est proposé par le système bancaire qui te permet de te mettre à l'abri pour l'avenir. Pas avec l'impression monétaire qu'on est en train de lancer partout, là.
D'où vient la valeur que moi j'achète un Bitcoin en 2012 et puis maintenant il vaut 50 000 balles? D'où vient la plus-value? Qui a payé cette plus-value?
Bah, c'est dû à la rareté, essentiellement, hein. C'est dû à la rareté, et puis effectivement à la reconnaissance que ce protocole est en train de disrupter tout le système financier. Quand toi t'imagines qu'aujourd'hui on parle du crypto yuan. Quand j'ai commencé, moi c'était inimaginable. Je te dis, ils nous ont rigolé au nez quand on a dit qu'on pouvait faire un stablecoin euro. On était des extraterrestres.
Une monnaie, ça gagne pas d'argent. Si je mets 1000 balles à la banque, et un compte courant tout bête, 10 ans plus tard, j'ai toujours 1000 balles. Si la banque a pas coulé.
Dépend.
Et on enlève l'inflation.
Tu faisais ça dans les années 90 avec du dollar, tu gagnais de l'argent. Ça dépend quelle monnaie.
Oui, mais si j'ai un rendement, ça veut dire qu'il y a une création de valeur quelque part. Le livret A, par exemple, pendant très longtemps, c'était exclusivement du logement
quand
social.
Quand t'achetais du dollar et qu'il montait par rapport à l'euro, ou le contraire. Moi, quand j'ai commencé à bosser avec APC, j'étais payé en dollars. Et j'avais fait tous mes calculs, c'était bien payé, hein. T'as un petit pas qu'il y a un tel écart d'un seul coup que je me retrouve à gagner 30% de plus. Mais en 3 mois, quoi.
À cause du taux de change.
À cause du taux de change. 30%. Donc quand on me dit que le Bitcoin est trop volatile pour être une monnaie, si tu veux, ça me fait poiler. Donc le Bitcoin, il s'apprécie parce qu'il y en a très peu et que le jour où tu réalises qu'il y a que 21 millions de Bitcoin, qu'on est 7 milliards sur la planète et que tu pourrais peut-être en avoir un complet pour toi tout seul, ben oui, ça y est, d'un seul coup, c'est une évidence, quoi. Il faut en avoir. Il faut en avoir un peu, et maintenant en avoir un complet, ça devient compliqué.
Et à part la spéculation, ça sert à quoi d'en avoir?
Alors ça, c'est la première des choses. Voilà. Après, ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'idée c'est quand même de disrupter ce système qui est ultra malsain. Et donc déjà, ça fera une économie énergétique considérable quand on aura plus tout ce poison bancaire qui vient sur l'économie mondiale. Parce que c'est un véritable parasite, hein, le système financier. Tu remontes 50 ans en arrière, le système financier présentait 8% du commerce mondial. Aujourd'hui, c'est 14%. C'est beaucoup trop, ça l'étouffe. Donc ça va changer ça aussi. Ça va faire partie de ça. Et puis c'est hyper sain, de cette révolution monétaire n'amène que du progrès, dès lors que ça ouvre une bancarisation à des populations qui n'y ont pas accès aujourd'hui encore en 2021. C'est dingue. Depuis que j'ai 20 ans, j'entends parler de bancarisation des populations pauvres. On a toujours 40% des adultes sur la planète qui n'ont pas de banque. C'est juste un échec patent, quoi. C'est une catastrophe. Comment veux-tu faire sortir les gens de la misère s'ils n'ont pas accès à quelque chose qui leur permet de mettre un peu d'épargne, de quelque chose de solide, autre que du liquide? Ces 40% de personnes adultes dans le monde, leur seul horizon, c'est un petit commerce local, parce que c'est de la monnaie locale, qui souvent a très peu de valeur chez le voisin en plus, en liquide. Donc ça veut dire qu'ils peuvent pas thésauriser, ils peuvent pas économiser, ils peuvent pas envisager de s'ouvrir à la mondialisation. Parce que qu'est-ce que tu veux faire quand tu ne peux accepter que du liquide, te créer un site internet où tu vas vendre ta carafe que tu viens de fabriquer, t'es le seul dans le monde à savoir la faire, mais comment tu la vends? Tu peux pas la vendre. t'es coincé et t'as pas accès au système bancaire parce que ton état civil est pas assez solide ou parce que t'es trop pauvre ou simplement que t'habites dans une région où il y a pas de ville, donc il y a pas de banque. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec presque la moitié de la population mondiale qui a pas de banque. Donc ça, c'est un échec patent. Et ces populations-là, souvent, ont un téléphone. Là, c'est ce que je disais à Charles hier. Il dit, ouais, mais s'il y a plus d'électricité. J'ai dit, mais s'il y a plus d'électricité, Bitcoin ne s'arrête pas pour autant. Moi, je vais très souvent dans un pays où, encore une fois, il y a 8% des gens qui ont de l'électricité. Beaucoup de ces gens-là ont un téléphone. Parce qu'il y a un petit panneau solaire dans le village, et tout le monde vient de se connecter dessus, ça consomme très peu un téléphone, donc ils arrivent à avoir du jus, quoi. Au pire, t'as un vélo avec une dynamo, t'arrives à charger ton téléphone sans aucun problème. Donc, tu peux fournir aux gens, et moi j'ai vu des gens, au fin fond de l'Afrique, en campagne, d'un seul coup avec un valet, dans lequel on leur mettait 20 euros parce qu'ils venaient nous rendre un service, qu'on leur aurait donné 25 dollars de toute façon en liquide. Et ça leur donne accès à cette culture financière. Ils peuvent économiser une partie de ce qu'on leur donne. Ça a énormément de sens. C'est une bancarisation immédiate, gratuite, sans enquête préalable. Et c'est ouvert à tout le monde. Et ça, c'est juste dingue.
Ah, il va falloir changer de mot, parce que bancarisation, mais il n'y a pas de banque, alors.
Ouais, mais enfin, ça te permet de donner accès à une valeur monétaire qui ne s'exprime pas avec du papier. Et c'est quand même vachement intéressant.
Ça permet de se projeter dans le futur. Quoi.
Bah bien sûr,
on peut stocker de la valeur.
Et quoi. Surtout, ça permet de ces populations-là de d'évoluer.
Et de faire du commerce.
De faire du commerce, de rentrer dans cette mondialisation dont ils ne voient que les effets pervers. Donc pour moi, c'était une évidence ça, en termes de confort financier pour les populations débancarisées. C'était très important. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un outil de résistance à des états totalitaires. Ça, c'est quelque chose de très très fort. C'est-à-dire qu'un État totalitaire a une surveillance totale de ses populations par la monnaie. Bien meilleur que n'importe quelle autre surveillance par vidéo ou quoi que ce soit. Donc, quand tu n'as qu'une monnaie nationale qui est gérée par la Banque centrale d'un État qui n'est pas bienveillant, et que tu veux résister à cet État totalitaire, t'es coincé, quoi. On l'a vu à Hong Kong, hein, les gars. Pourquoi ils ont retiré beaucoup d'argent des distributeurs? C'était pas du tout pour créer un bank run, comme on a pu l'imaginer. C'est parce qu'ils savaient qu'ils étaient identifiés et qu'ils pourraient plus avoir accès à leur compte en banque. Voilà. Donc, s'ils ont du Bitcoin, ils sont sauvés. Et si tu lis ce que communique Human Rights Foundation en ce moment, ils ont découvert le Bitcoin il y a 2-3 ans, hein, ils se rendent compte que c'est un outil de liberté de dingue pour lutter contre les dictateurs, ouais. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a intéressé, la bancarisation des populations pauvres et puis cet outil de résistance aux états totalitaires. Donc quand j'entends que les gouvernements vont s'entendre pour interdire le Bitcoin, je dis qu'on rentre dans un état mondial totalitaire. Et c'est une véritable soupape de sécurité.
Du coup, pour les jeunes, le grand message c'est d'aller vers ces technologies et de s'approprier.
En tout cas, se les approprier, en faire son métier, c'est beaucoup. C'est pas du tout. Tout le monde ne pourra pas venir bosser dans l'industrie des crypto-monnaies. Hein. Mais en tout cas, de s'y intéresser. Pour ceux qui veulent pas s'y intéresser, mais se préparer à un avenir, faut acheter un peu de Bitcoin tous les mois, bien sûr. Parce que ils vont chez Stackinsat, chez Jonathan, et ils mettent 10 balles tous les mois, ou 20 balles tous les mois, ou 100 euros tous les mois si leurs parents leur donnent beaucoup d'argent de poche. Et dans 5 ans ou dans 10 ans, ils seront plus à l'aise pour démarrer dans la vie professionnelle, quoi. Parce qu'ils auront un matelas, ils auront un coussin de sécurité.
Puis c'est une nouvelle façon de penser.
Et ça va les amener, du coup, à travailler sur les exchanges et à penser différemment, bien sûr. Mais je le vois, hein, moi, j'ai des jeunes autour de moi qui, enfin, c'est devenu une évidence pour eux. Tu leur dis, c'est quoi Bitcoin? Mais c'est la monnaie. Voilà, c'est tout.
Sébastien, merci beaucoup, à bientôt.
Je t'en prie.
On se reverra.
J'espère à bientôt.